I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Non, c'est stressant quand même, moi, c'est ma première fois que je fais ça de ma vie.
Alors, c'est de la sardine et des baies roses.
Alors, c'est bien, ça.
Mais on y est presque.
Tu me plais, Sarah.
Ça te va?
Tu me plais, non, tu me plais, ouais.
L'enregistrement a commencé, mes amis, donc je vous invite à vous rapprocher de vos micros.
Eh ben, écoutez, bienvenue chez moi. Première soirée podcast Perro, j'ai appelé ça comme ça parce que je ne savais pas comment l'appeler. Quelle intimidation. On est 5 ce soir, donc ici Marie, hein, comme d'habitude, du podcast Sois sage et parle fort. Je ne sais pas le combientième épisode depuis 5 ans, et c'est la première fois que j'enregistre avec 4 autres invités, c'est énorme. Du coup, ce soir, je suis en compagnie de Sarah, Emira, Martin et Louis. Nous avons besoin d'une pause rhume, non? Même pas? Ok.
Absolument pas. Je vois pas de quoi vous parler.
Petit tour de table rapide. Je vous invite à ce que chacun, vous puissiez peut-être dire qui vous êtes. Et ma petite question pour chacun, c'est comment vous vous sentez maintenant, aujourd'hui? Voilà. Moi, je vais commencer. Je suis super contente. Comme on dit déjà, reconnaissante de la confiance que vous m'accordez. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas forcément prendre la parole et qui n'osent pas forcément parler de sujets. On n'est pas chez le psy, mais bref, parler de soi ou parler de son expérience, c'est jamais simple. Donc merci, à chaque fois je dis merci aux gens qui viennent sur le podcast parce que ça me touche énormément. Et moi, comment je me sens? Donc reconnaissante, un peu fatiguée, et j'ai hâte d'être en vacances. Et je suis toujours aussi contente de faire ce podcast. C'est toujours aussi trop chouette. Voilà pour ma part.
Donc, je suis Sarah. Merci Marie pour son invitation. Je suis contente et un peu stressée d'être ici. Curieuse aussi de savoir ce que ça va donner. Donc, je me présente en quelques mots. J'ai 29 ans et bientôt 30. Ce qui m'angoisse énormément.
Bienvenue.
Et dans la vie, je suis psychologue.
La pression.
Alors là, je sais pas.
Bonsoir, moi c'est Emira. Avant d'être copine d'Omari, je suis aussi ex-collègue d'Omari. J'ai 34 ans. Je travaille dans le digital. Et c'était quoi ta deuxième
Comment
question? C'est la météo intérieure.
La météo intérieure.
C'est ça. La tempête de neige. Non, non, en ce moment, j'envisage beaucoup de changements dans ma vie. Donc, je suis un peu perdue. Mais ce n'est pas péjoratif. Je suis perdue parce qu'il y a pas mal d'opportunités, de possibilités devant moi. Voilà.
Et quand on a trop de choix.
Donc, plutôt déterminée. Je dirais. Ça te va comme météo?
J'aime plutôt ça.
Voilà, c'est tout.
C'est 2 minutes que j'ai pas bu. Non, je m'appelle Martin, j'ai 28 ans. Et je travaille dans la production audiovisuelle et je suis aussi vidéaste. Et très fan de musique électro aussi. Comment je me sens à l'intérieur en ce moment? Écoute, je suis un petit peu la ligne pour l'instant, tout va bien. J'ai un peu fatigué, mais plutôt bien en ce moment. Ouais.
Eh bien, bonjour, bonsoir. Moi, c'est Louis, j'ai 25 ans. Je suis en reconversion dans la cybersécurité actuellement. Et au niveau de comment je me sens actuellement, déjà j'ai très hâte que ce podcast commence, même s'il a déjà commencé, pour découvrir tout ce que les gens ont à dire et l'expérience qui en sortira. Et un peu comme Emira, moi je suis face à plein de changements, mais c'est pas contrairement à elle ou autre, rien à voir. C'est, moi, il y a plein de changements qui sont voulus et qui sont dans une voie de progression. Donc, du coup, j'ai hâte de découvrir et de devenir ce que j'aurais dû être ou ce que je suis amené à devenir.
Du coup, si je résume, on a plus ou moins tous le même âge. On se dirige tous vers la trentaine. Toi, tu l'as dépassé. Oups, on le dit pas. Mais on a à peu près.
C'est pas du tout oups, hein, c'est hell yeah.
Hell yes. Parce que c'est parce que plus ça avance, mieux c'est, meilleur c'est. Mais oui. ouais. Du coup, pour ce premier podcast Perro, je sais pas comment on va l'appeler, mais j'avais pour idée de. Et je pense que c'est un sujet qui nous concerne un peu tous. On est à une date précise et puis en général on meurt, mais en général on ne sait pas quand. On est tous plus ou moins confrontés à la question de la mort dans sa vie, de près ou de loin, soit à titre personnel, soit pour des proches. Et en fait, la question qui était derrière, c'était ok, on sait qu'on va tous y passer un jour. Est-ce que c'est le fait de le conscientiser, de le savoir, qui va nous faire agir différemment quand on vit ou pas? Quelles sont peut-être les manières possibles en fait d'agir en sachant qu'on va mourir? Est-ce que du coup on passe dans des excès et qu'on veut bouffer la vie dans tous les sens du terme et que ça peut prendre parfois des comportements pas forcément adaptés ou pas forcément toujours les plus logiques? Je sais pas. Je saurais pas dire quelle est la première question à poser, là. Moi, personnellement, j'ai très peu connu la mort chez d'autres personnes de mon entourage. J'ai quasiment pas vécu de deuil autour de moi. Par contre, j'ai frôlé la mienne. Il y a un peu moins de 10 ans, en 2015, j'étais dans un lit d'hôpital. Et je pesais 28 kilos. J'avais supplié pour être hospitalisée parce que je savais que j'allais y passer si j'y allais pas. Et je me rappellerai toujours que je suppliais l'univers ou je sais pas quelle force supérieure de me réveiller le lendemain. Et je me rappelle que je me suis promis que si jamais je survivais, je ferais tout pour mériter ce cadeau de rester vivante. Et chaque matin, je me réveillais, j'étais putain, j'étais vivante. Bon, et après, bah, la vie, elle est repartie et... Et maintenant, ça me revient en tête, en fait, d'autant plus maintenant de me dire, mais en fait, j'ai eu ce cadeau de rester vivante. Enfin, j'ai eu ce cadeau. C'est pas un cadeau, j'ai choisi. J'avais l'option, c'était soit je me laissais crever, soit je choisissais la voie difficile, parce que parfois, c'est plus difficile de vivre, en fait. C'est presque plus simple de mourir. J'ai vraiment envie de m'offrir une vie pleine de vraies choses qui comptent. Et pas de blabla, et pas de mensonges, et pas de gens faux, et pas de manipulation, et pas de voilà, de fausses personnes ou de faux comportements pour juste cacher les choses qui vont mal. Et dans notre société aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ce rapport-là à la vie ou à la mort, et qui du coup, c'est pas une critique, mais métro, boulot, dodo, et qui vont peut-être pas chercher plus loin. J'ai pas forcément de réponse, je dis pas que c'est une vérité absolue, c'est juste mon point de vue, et du coup, je sais pas si c'est ça, mais c'est le fait d'avoir vécu ça de près et de m'être posé ces questions qui font qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de situations dans lesquelles je me sens inadaptée parce que ça me semble creux. Et c'est horrible de dire ça, parce qu'on pourrait croire que c'est un jugement, alors que pas du tout. Mais du coup, ça fait un filtre énorme, ça fait un tri énorme dans ce que tu mets dans ta vie et dans les gens que tu mets dans ta vie, parce que il y a plus les mêmes considérations, en fait, à partir de ça. Voilà, c'était entrer dans le sujet en délicatesse. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Peut-être que quelqu'un veut prendre la parole sur son rapport à la mort ou ce qu'il a vécu, lui, par rapport à la mort.
Moi, je propose peut-être qu'on commence par une question sur à quel âge on commence...
À se rendre compte ?
Ouais, à quel âge on se rend compte que ça existe, un tel truc dans la vie,
qu'il y a une fin ? Ou que en fait c'est peut-être pas une fin.
C'est ça. Il y en a beaucoup qui disent que c'est pas une fin. Enfin.
Je pense pas que ça soit une fin. Ouais.
C'est une étape, on dit.
Mais ouais. Bon.
Et pour répondre à cette question, pour ma part, moi j'étais affrontée à ce concept-là quand j'avais 5 ans. J'avais un proche qui était décédé, etc. Donc c'était la première fois où on me dit X est mort. C'était la première fois aussi que je vois la réaction des gens à ça. Donc j'ai compris ce que c'est la mort via la réaction des gens autour de moi. Je leur voyais très tristes, etc. C'était bouleversant, etc. Ça a déclenché une émotion très négative en moi. C'est pas la mort qui a déclenché une émotion négative, c'est plutôt de voir ma maman pleurer, de voir ma famille triste. Donc c'était tout de suite lié à un truc très négatif. Donc je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce monstre qui s'appelle la mort ? Ça peut, voilà, en un instant, rassembler toute la grande famille chez nous et créer des moments de solidarité, mais dans la tristesse absolue. Je pense que c'était ça le début de...
La conscientisation.
Voilà, la conscientisation. Après, bien sûr, c'est arrivé la peur de la mort, puisque c'était négatif à ce que j'ai vu. Ça veut dire que j'avais jamais une conversation avec un adulte qui m'explique c'est quoi la mort. Je l'ai découvert directement en voyant un exemple.
Et t'as pas eu l'occasion d'en discuter après, genre, d'une manière positive de... Parce que aussi, il y a souvent ce truc quand on est enfant et qu'il y a un proche qui meurt, je sais pas, un grand-parent, etc. Ce truc de, il était vieux, c'était l'heure, il va aller au paradis, ou ça dépend de la religion, tu vois.
Ouais. Mais moi, malheureusement, le premier exemple qui m'est arrivé, c'était pas un vieux, c'était mon oncle, le frère de mon papa. Il avait 24 ans, accident de route. Donc, quand t'as 5 ans. Et surtout, quand, dans le discours que tu entends, il n'y a pas ces arguments-là de « il est vieux, il va partir au ciel », etc.
Est-ce que, par exemple, on t'a dit « il est parti, il ne reviendra pas » ou est-ce qu'on t'a dit réellement « il est mort et sa vie s'est éteinte » Est-ce qu'on l'a verbalisé, ça?
Ouais, c'est plutôt la deuxième...
Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ouais. Sa vie s'est éteinte. Est-ce que ça veut dire que ta vie, tout ce que tu as vécu, s'éteint? C'est comme genre « boum, pouf, ça, c'est fini, c'est effacé ». Parce que tu passes dans une autre galaxie, parce que tu disparais, parce que tu deviens de la poussière, parce que...
Bah, ton expérience, en tout cas, s'arrête, quoi. Mais après, pour revenir sur le truc, c'est est-ce que les parents ont fait le travail de cacher ou de minimiser ce sujet-là et de vraiment te dire ou non si... Enfin, de t'expliquer qu'est-ce que c'était la mort et du coup, toi, de te permettre de faire ton deuil, quoi. Ils te l'ont caché, ils te l'ont minimisé, ils te l'ont dit vraiment, il est parti, il ne reviendra pas.
Ouais, au début, c'était « il est parti, il reviendra pas ».
Ouais, c'est genre c'est un départ et puis il a fermé la porte et...
Après, quelques jours après, je me rappelle de ma maman qui a essayé un peu d'avoir des réponses plus rassurantes pour une petite fille. Mais tout était abstrait dans ma tête. Je voyais pas trop, c'est tellement abstrait en fait.
C'est vrai que c'est dur à conscientiser à l'âge de 5 ans. T'es même pas encore formé ou autre, donc comprendre c'est que... Ce qui t'anime en toi peut disparaître, enfin même le toi intégralement peut disparaître. C'est vrai qu'à 5 ans, c'est dur à conscientiser. Hein.
Mais c'est surtout aussi parce que dans notre société, on considère qu'il y a un début et il y a une fin, et que personne ne connaît ce qu'il y a après, parce que logique, personne...
C'est que personne n'est revenu, ça.
Oui, a priori, personne n'est revenu encore, mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et il y a tellement de mystères qui entourent ça, qu'au final, je pense que ça reste tellement quelque chose qu'on ne contrôle pas, que fatalement, ça fait peur.
C'est ça, la peur de l'inconnu, en fait. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Mais ça vous fait peur, vous, la mort ?
Plus maintenant.
Plus maintenant, c'est ça, moi aussi.
Non.
Et qu'est-ce qui a fait le plus maintenant ? Est-ce que tu l'as frôlé ? Tu l'as...
Je pense sincèrement qu'il y a quelque chose après.
Ok. Et c'est venu d'où ? C'est de quoi ?
D'échanges avec des personnes qui ont perdu... Il y a un des épisodes que j'ai fait avec ma cousine qui a perdu son mari, âme sœur, tout ce que tu peux l'appeler, et elle parle de lui au présent. Elle a vu une médium qui lui a dit des choses que Julien, son mari, lui aurait transmis par l'intermédiaire de cette médium. Personne d'autre ne pouvait savoir ça. Il y avait des éléments de détail que personne ne pouvait savoir où elle lui a donné des indications précises de ce que Julien lui disait. Par rapport à des souvenirs, par rapport à des choses qu'ils ont vécues ensemble, la médium ne la connaissait pas du tout. Et aussi, il y a eu tellement de livres sur les expériences de mort imminente où tu as des gens qui sont revenus, effectivement, mais qui ont eu un pas juste dans l'entrée de la mort, entre guillemets, et qui ont clairement vu l'après, en mode... chacun a vu peut-être des proches, etc., qui sont déjà partis, et je pense que, clairement, la vie après est beaucoup plus douce. c'est un autre épisode que j'avais fait avec, justement, une médium, où elle voyait ça comme un peu... Elle donnait... Alors, c'est sa vision des choses, mais que quand on meurt, on devient des paillettes d'énergie. Et que, parce que, en fait, nous, là, notre carcasse, notre enveloppe physique, c'est juste une enveloppe qui nous permet d'être vivants, qu'il y a des organes, il y a du sang, etc. On vit sur Terre. Mais où, en fait, où après, quand tu prends conscience qu'il y a aussi une question d'énergie, quand tu fais un peu des recherches sur les notions d'énergie, etc., on est juste des atomes d'énergie. Pourquoi est-ce que, une fois qu'on meurt, cette énergie qui est à l'intérieur, qui est notre âme, qui est nos émotions, nos sentiments, etc., pourquoi est-ce que ça s'arrêterait ? Parce que c'est des énergies. Donc à partir de là, tout est possible, tu vois. Vu qu'on n'a plus l'enveloppe physique, tu peux très bien te dire, en fait, bah, peut-être qu'on devient autre chose après et qu'on voit plein de choses, peut-être pas. Mais du coup, j'en ai pas peur parce que... Alors j'en ai pas peur, mais j'ai quand même l'intention d'en profiter au maximum pendant que je suis sur Terre, hein, je sais pas. Mais c'est plus quelque chose qui me fait peur parce que la seule chose qui me fait peur, c'est de pas faire les bons choix pour en profiter au mieux. Donc c'est plus ça, tu vois.
Il y a quand même une notion de profiter, quoi.
Profiter. Alors, c'est encore un terme à définir, mais profiter.
Okay, on le redéfinira peut-être plus tard.
Ça, tu prends la place de l'intervieweur, là.
Je sais pas.
Je suis intimidée. En fait, en vrai, j'ai jamais été interviewée.
On inverse les rôles, pourquoi pas.
Bah, c'est le concept de la table.
J'avoue.
Toi, du coup, quand est-ce que tu as commencé à te rendre compte de ce concept ?
Moi, la première chose marquante où j'en ai pris conscience, c'est quand j'avais 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'ai perdu mon père, qui a eu un cancer fulgurant à partir du moment où il a appris qu'il était malade. On a appris qu'il était malade. Et le moment où il est parti, il s'est passé 4 mois. Donc ça a été assez violent sur le moment. Et il y a eu une deuxième fois où après, quand j'avais 23 ans, j'avais ma meilleure amie qui était dépressive. De fil en aiguille, enfin, ça faisait 8 ans qu'on se connaissait. Moi, j'étais assez présent et je suis quelqu'un d'assez introverti. Elle était aussi introvertie. On se livrait beaucoup, donc quand elle allait pas bien, c'est à moi qu'elle se confiait. Et petit à petit, ça a fait que finalement, on a décidé de se mettre en couple. Depuis longtemps, il y avait des sentiments qui étaient plus que de l'amitié. Mais ça n'a pas suffi et c'est quelqu'un qui s'est suicidé à 23 ans, du coup. Et donc ça a été la deuxième fois où je l'ai vraiment vécu de face. Maintenant, sur le rapport à la vie aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, enfin voilà, c'est hyper badant le type.
Attends,
mais ça va.
Rapproche.
Ok. Mais non, aujourd'hui ça va, je pense que c'est assez derrière moi et ça m'a donné beaucoup de clés. Je pense surtout, comme tu disais Marie, sur l'appréhension de la vie après et l'envie de croquer la vie à pleines dents. Je pense que l'important en fait c'est ça, c'est de vivre sa vie d'une manière à ne rien regretter. Moi je sais qu'il y a plein de changements qui sont passés à partir de ce moment-là. Enfin, ça a pris un petit peu de temps évidemment, mais... où j'ai été de plus en plus honnête avec moi-même et à me dire qu'au final, qu'est-ce que t'as à perdre, tu vois ? Et au final, je dirais pas que c'est une chance d'avoir vécu ça aussi jeune, mais ça a déclenché énormément de choses positives dans ma vie. Ça a fait que je suis parti à l'autre bout du monde, ça a fait que j'ai fait des rencontres exceptionnelles, que j'ai fait un tri énorme dans ma vie, que j'ai accepté des nouvelles personnes dans ma vie qui m'apportent énormément aujourd'hui et où peut-être d'autres personnes, je me rendais pas compte, m'apportaient pas autant alors que je les connais depuis beaucoup plus longtemps. Enfin voilà, c'est tout ça pour dire que ça a été un élément déclencheur forcément qui est assez destructeur sur le moment, mais sur le long terme ça renforce. Et la prise de recul de ce genre d'événement, ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose qui vous fait aimer la vie au final plus que autre chose.
Est-ce que tu te sens en décalage
aujourd'hui
par rapport à d'autres personnes?
Aujourd'hui, en décalage dans le sens où forcément que j'appréhende les choses d'une autre manière, la façon de vivre, elle est différente. Mais non, heureusement, non. Il y a plein de gens avec qui aussi je ressens aucun décalage et pas forcément qui ont vécu la même chose et j'ai pas besoin d'avoir des gens qui ont vécu exactement la même chose pour me sentir compris. Là où, à l'époque... j'étais vraiment dans une recherche et j'avais vraiment cette impression d'être en décalage avec tout le monde. Mais non, aujourd'hui, je ne ressens pas de décalage particulier, mais parce qu'il y a une reconstruction, parce que j'ai eu l'occasion d'être entouré par des personnes qui ont été merveilleuses avec moi et qui m'ont fait comprendre un peu ce que c'était que le sens de la vie d'après.
T'avais été aidé à ce moment-là ?
Tu veux dire d'une manière médicale ?
Peu importe, est-ce que t'as... c'est quoi qui t'a aidé ou en tout cas comment t'as traversé ça ?
Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le voyage, de partir très loin et... Enfin, je conseille pas à tout le monde qu'il faut se barrer absolument le plus loin possible pour essayer de... Parce que ça peut rester une fuite en avant. Mais juste de rencontrer d'autres cultures, d'autres manières de vivre, ça fait prendre du recul sur sa propre vie. Et tu te rends compte aussi qu'il y a des gens qui vivent des choses qui sont tout aussi difficiles. Et je pense qu'il n'y a pas d'échelle en fait dans le malheur au final. Et je sais pas, quand tu vois des gens qui vivent, même aujourd'hui, quand on voit là, aujourd'hui les conflits qu'il y a actuellement, il y a des gens qui meurent tous les jours, il y a des gens qui sont confrontés à la mort de leurs proches tous les jours. Moi, ma propre histoire, ça m'appartient, mais c'est une histoire triste parmi tant d'autres. Au final, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont vécu par des chemins complètement différents, des choses qu'on peut juger tristes. Maintenant, quand tu sépares le jugement de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi, ça reste des expériences, et dans toute expérience, il y a des choses à apprendre. Plus tu t'attardes sur ça, sur les leçons que ça te donne, les expériences que tu c'est vis, ça. Tu te renforces en fait, en tant que personne, en tant qu'être, et t'es encore plus armé pour vivre ta vie justement.
Ça me fait penser à un des précédents épisodes que j'ai enregistré avec Corinne. Et elle avait dit cette phrase, on est tous responsables de ce qui nous arrive sur Terre. Et c'est hyper, hyper dur à entendre à des moments parce que elle disait, les personnes que tu rencontres, les situations que tu vis, on est tous responsables. On l'a choisi. Moi, j'étais, t'es gentil, mais va dire ça à des gens qui se font tirer dessus ou qui ont un accident de voiture alors qu'un mec en face était bourré. Comment tu peux recevoir ça ? Et c'est vraiment... J'ai eu cette conversation il y a genre... même pas une semaine avec un mec qui vit à l'autre bout du monde. C'est encore une rencontre chelou. Mais il vit à l'autre bout du monde en Thaïlande. Et il me disait, je peux pas dire ça à tout le monde. Mais je considère qu'il y a des choses qui se passent sur Terre ou individuellement qui sont désastreuses. Mais parfois, si on recule, des fois, il y a des explications qui... On peut pas l'expliquer, c'est au-dessus. Et ça arrive. Mais il y a toujours des choses où après, quand ça t'est arrivé, à titre personnel ou à titre général, où ça amène à quelque chose qu'on peut apprendre. Mais tu peux pas, quand tu vis ce genre de choses hyper dures, de te dire « Ah ben super, qu'est-ce que je vais apprendre ?» Dis-donc, je suis curieux. Mais pour autant, toi, il en est ressorti du positif, mais est-ce que t'as pas ressenti de l'injustice ou de la colère aussi ?
Bah là, je te parle de ça 8 ans après. Et évidemment qu'il y a eu du temps et que... Après, c'est deux choses différentes, si tu veux, si on compare les deux... Enfin, si t'analyses les deux confrontations à la mort, c'est que mon père, ça a plus été quelqu'un qui avait envie de vivre et qui n'a pas pu. Ma meilleure amie, c'était plus quelqu'un qui pouvait vivre mais qui n'a pas voulu. Moi, de mon point de vue personnel, si tu veux, c'est que... Heureusement que ça s'est passé dans cet ordre-là. Enfin, heureusement, je sais pas si c'est le mot, mais... Quand ma meilleure pote est décédée, si tu veux, ça, moi, j'avais plus envie de vivre. J'avais plus envie de rien. J'étais complètement détruit à l'intérieur. Et une des choses qui m'a aidé à tenir, si tu veux, c'est de me dire, je peux pas faire ça à mon père, je peux pas faire ça à ma famille, je peux pas faire ça à ma mère, je peux pas faire ça à ma petite sœur. Parce qu'elles ont déjà vécu quelque chose de traumatisant. Donc si moi, je m'enlève la vie, je les condamne à vivre leur vie en devant accepter aussi ma mort, tu vois. Et en fait, d'avoir vécu la mort de mon père avant, ça fait que ça a été la première chose qui m'a donné l'impulsion de pas me retirer ma propre vie, parce que je pouvais pas trahir sa confiance. Lui, il aurait voulu vivre, donc je vais vivre pour lui ce qu'il a pas pu vivre, tu vois. Maintenant, c'est tout à l'heure on parlait de comment on voit la vie vis-à-vis de la, enfin la vie et la mort, est-ce qu'il y a quelque chose après, etc. Moi, j'ai entendu un très beau poème à la mort de ma meilleure pote, où il y a quelqu'un qui a dit que en fait la vie c'est comme une grosse croisière, tu vois. Et qu'elle a juste décidé de quitter le bateau avant. Ce qui est sûr, c'est qu'on va tous à la même destination à la fin. Et moi, je pense un peu ça, c'est qu'on va se retrouver à la fin. La fin, c'est la mort, tu vois. Enfin, et si on enlève la connotation hyper, hyper négative, ou la peur qui est liée à ça, etc., on se reverra. Et moi, j'ai juste envie de dire, bah, écoute, regarde en fait. Regarde tout ce que t'as raté.
Et aujourd'hui, moi, je vis ma vie comme ça. Je me dis, mais je vais vivre pour tous. Enfin, en tout cas, ces deux personnes-là qui n'ont pas pu. Et je leur raconterai, en fait, ce que c'était que la vie, tu vois. Et je leur donnerai tort de... Enfin, en tout cas, elle, je lui donnerai tort que de s'être enlevé la vie.
Bah, peut-être qu'elle aura des choses à te raconter qu'elle aura vues là-bas, hein.
Bah, écoute.
On sait pas. Ça leur parlera, peut-être passé mais... des trucs de fou, hein. Tu sais
c'est
pas.
Il sympa aussi.
C'est cool, écoute, il y a... Ouais. Hey, on sait pas, peut-être que c'est la plage, peut-être qu'il y a des trucs peut-être. Cool aussi, hein.
Peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Comme on disait tout à l'heure, c'est que... La vie sur Terre, on... Comme tu disais, cette enveloppe, peut-être que ça se passe qu'une fois, autant l'explorer au maximum et pas enfin, jusqu'au moment où forcément on sera malade un jour, il y aura forcément, tu vas te détériorer avec le temps, ton enveloppe se détériore. Donc tant que tu peux profiter alors qu'elle est en forme, bah fonce quoi, tu vois.
Long story, long short story, il y avait des choses à dire. Mais très intéressant. Quelque chose à dire, Sarah ?
Sure.
Ton rapport à la mort, ou... Oui, parce que toi, tu as un point de vue de psychologue, du coup, est-ce que tu as un regard différent, ou peut-être pas d'ailleurs ? C'est quelque chose qui te fait peur ?
Bah alors, avant d'être psy, je suis une jeune femme de 29 ans et je me dis que, en fait, je vois plus la mort par ce prisme-là que par mon métier.
Ouais.
En vous écoutant, évidemment, ça, bon, ça fait écho, ça m'amène à essayer de construire une réponse avant de prendre la parole, là, tout de suite à ce micro. Bon, c'est quelque chose que je m'étais déjà dit, hein, dont j'ai conscience, mais l'angoisse de mort, c'est comme si elle avait... Oui, je parle d'angoisse de mort parce que c'est vraiment ça, je suis très angoissée par la mort, et depuis très jeune, donc c'est comme si ça avait un petit peu guidé jusque-là ma vie, mon existence en tout cas, mais pas me concernant.
Ça t'inquiète pour les autres ?
Ah oui, mais d'une manière qui m'empêche presque de vivre.
C'est la mort de qui te stresse ?
De mes très proches.
Ouais.
J'entends par là mes parents et mon frère, avant tout. Et je sais pas à quel âge ça a commencé. Tout à l'heure, Emira, tu demandais à quel âge. Et alors, 5 ans, c'est très jeune, hein. Parce qu'en général, c'est entre 5 et 10 ans qu'un enfant, dans son développement psycho-affectif,
prend conscience
peu à peu, au fil des années, de ce que c'est que la mort et de son caractère irréversible. Le sommeil et la mort sont deux choses différentes. Mmh. Et à 10 ans, en général, l'enfant peut dire « Ah oui, la mort, c'est irréversible. Mmh. Mon proche, mon copain, mon ami,
mon chat,
mon poisson... » ne reviendra, ne reviendront pas. Et alors moi, je serais incapable de dater ma première prise de conscience, mon premier contact avec la mort. J'ai très peu de souvenirs aussi de mon enfance. Par contre, je sais que j'ai très tôt eu extrêmement peur de perdre ma mère avant tout. Puis mes parents et mes proches. Donc ça a commencé comme ça. Et puis ça continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah voilà, je suis une adulte, il paraît. Enfin, sur le papier, je suis une adulte, en tout cas. En tout cas, il paraît que je suis une adulte et il faut faire avec. Et aujourd'hui, c'est un peu mon métier, ce rapport à la vie et à la mort, parce que je travaille dans un service hospitalier auprès de personnes qui sont très, très malades, dont le corps ne les fait plus vivre. Donc, il y a une défaillance des organes qui fait que bah, les gens ne se suffisent plus à eux-mêmes.
Et eux, ils le vivent comment, ça ?
Eh bien, il y en a qui sont pris également dans de grandes angoisses de mort et d'autres qui banalisent ou arrivent à rationaliser ou n'y pensent pas.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tu parles de l'angoisse de la mort de tes proches. À quoi ça fait écho, du coup ? Est-ce que ça serait « je vais me retrouver toute seule » ou est-ce que ça serait juste « c'est d'être triste pour eux » ?
Comme si j'avais pas survivre à ça.
Ouais.
Peut-être que j'ai quelque chose de très mélancolique, mais...
Non, c'est hyper intéressant.
Je me dis, bah, le jour où certains de mes proches mourront, je ne serai pas en mesure de me faire vivre et de survivre.
C'est trop... Je rebondis juste sur ça, parce qu'il y a encore, je pense, un an, la seule évocation de dire « je vais pouvoir perdre mon père », je voulais même pas y penser, parce que c'était genre l'effondrement mental. C'était « je ne... » Qu'est-ce que je vais faire sans lui, en fait ? Parce qu'on a une relation tellement proche et tellement fusionnelle qu'en fait, s'il part, mais je vais faire quoi? Enfin, genre, je vais appeler qui quand j'aurai une question existentielle sur ma vie, ou pour avoir une déconnade au téléphone et pour déconner à qui je peux tout dire? Et alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais depuis, j'ai pas envie qu'il meure, bien sûr, mais j'ai conscientisé le fait que ça s'approchait. Mais ça me fait plus peur. Déjà, on a eu une discussion assez super joyeuse, la discussion. Mais il m'a dit, t'inquiète Marie, je te ferai des signes. Je viendrai te voir, je t'enverrai des trucs. Je te ferai des clignotants. Tu m'enverras des trucs. Et je pense que c'est d'avoir pris conscience aussi que... Alors, c'est pas pris conscience, mais d'avoir intégré ou d'être persuadé qu'en fait, c'est juste, comme tu disais, la croisière. Et t'inquiète, après, on se retrouvera au port. On prendra un verre là-bas, tu vois. C'est se dire ça, c'est qu'en fait, c'est... C'est parce que je pense qu'on est dans une société qui scinde la vie en deux étapes. T'es vivant, t'es mort. Et après, c'est fini. Ça disparaît, genre c'est pchit, tu vois. Mais si jamais on intégrait aussi que ça peut être quelque chose de pas joyeux, mais genre c'est juste, on connaît l'étape 1, on n'a pas de contrôle sur l'étape 2, donc ça nous fait peur. Mais si on apprend à faire confiance à la vie, on peut peut-être aussi faire confiance à ce qui nous arrive après.
Je pense que c'est... d'essayer de faire un travail de dédramatisation en fait, ouais. de cette étape, et de considérer que c'est une étape du tout, et dont parlait des énergies tout à l'heure, de ce qu'il y a après. Après, je pense que c'est subjectif à chacun. Je connais aussi des gens qui pensent que vraiment il n'y a rien du tout, rien du tout après, mais c'est tellement triste pour soi-même en fait de se dire qu'il n'y a rien. Sans parler de religion, en fait. C'est parce que la religion, au final, je pense que c'est plus facile pour quelqu'un qui est croyant d'appréhender la mort des gens autour de soi que quelqu'un qui ne l'est pas. Maintenant, quand tu ne l'es pas, ça veut pas dire que... Enfin, c'est pas parce que t'es connecté à aucune religion que ça veut dire que tu crois rien derrière. Enfin, il y a plein de nuances, au final. C'est à toi de te faire aussi... Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune preuve qu'il y a quelque chose, mais ce qui est sûr aussi, c'est qu'il n'y a aucune preuve qu'il n'y a rien. Et à partir du moment où il n'y a pas de preuve de l'un ou de l'autre, on ne peut pas savoir. Il y a plein de gens qui aiment donner leur avis là-dessus, mais ce qui est beau, c'est de justement pas savoir.
En fait, c'est peut-être tout le problème. C'est qu'en fait, on est dans une société où tout le monde a envie de tout savoir, tout sur tout.
Ouais.
Tout le temps, de tout contrôler, d'absolument tout savoir. Et c'est une des seules choses qui nous échappe le plus. C'est une histoire de contrôle aussi, de ce qu'on peut maîtriser, de ce qu'on peut connaître ou pas. Et l'homme cherche des justifications à tout, il cherche des explications à tout parce que ça le rassure, ça le rationalise. Et là, on est face à quelque chose qui nous échappe complètement, en fait.
Tout à fait. Et c'est ça, c'est au final, il y a tellement de choses qui sont liées à l'énergie, à la méditation. Ça fait appel à autre chose que juste que ce qui est rationnel. Et il y a tellement de choses, je pense, qui dépassent complètement notre perception qu'on est un petit peu bête de se dire qu'il y a... Tout se résume à notre trois dimensions et à ce qu'on voit, à nos cinq sens. Au final, tout est amené à nos sens. Et... Enfin, voilà. Je ne sais pas comment dire, mais je pense qu'il y a plein de choses qui nous dépassent. Et quelque chose... C'est ça qui est beau aussi.
Toi, Louis, tu as connu la mort de près ?
Non, justement. Moi, j'ai un rapport à la mort où ça a toujours été distant. La seule personne qui est morte dans ma famille, c'est... Non, je viens d'en penser, on a une deuxième... la première, ça a été mon arrière-grand-mère, où je suis même pas allé enterrement ou autre, parce qu'en fait j'étais plus petit. Je me suis déplacé pour être avec ma famille, etc., mais j'ai pas voulu assister à la cérémonie et autres. Je sais pas si c'était un choix, un déni ou autre, juste j'étais trop jeune, j'avais pas envie de. À ça, j'avais juste envie d'être avec ma cousine à ce moment-là. J'ai eu l'enterrement d'un oncle également. Mais moi, mon rapport à la mort, c'était, on parlait de dédramatiser et de croyance par rapport à ce qu'il y a après, ça pouvait nous rassurer ou autre. Bah justement, moi, c'est une croyance inverse où en fait, justement, je trouve que la mort, c'est beau dans le sens où, en fait, on a la chance de la vivre. C'est-à-dire qu'en gros, rien que le fait de pouvoir mourir, c'est-à-dire qu'on a eu l'occasion de vivre avant. Il y a plein de personnes ou d'êtres ou la forme dont vous voulez l'interpréter qui n'ont pas eu cette occasion-là. Donc déjà, le fait de pouvoir assister à la mort et de pouvoir avoir cette réponse ou non de ce qu'il y a après, déjà pour moi, c'est une très belle chose. Même sans savoir ce qu'il y a après ou non, même sans savoir si c'est une fin, si c'est un voyage en retour ou pas, je pense à ma mère qui, par exemple, elle est croyante, que grand bien lui fasse si elle croit ça. Je n'ai aucune preuve, elle n'en a aucune non plus, mais c'est les passions et les envies qui font vivre le... Enfin, qui font émerger la flamme en nous, je ne sais pas trop comment le dire. Mais ouais, mon rapport à la mort, moi, il est dans l'acceptation où, en fait, j'essaye d'être le plus possible présent avec mes proches pour justement avoir aucun regret, parce que je pense qu'en fait, la mort... En fait, on regrette pas la personne qui est morte, mais enfin, on regrette la personne qui est morte, bien sûr, mais on regrette le temps qu'on n'a pas passé avec elle. Et c'est là que les regrets se mettent en place, en mode j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire ça, et là il y a une forme de regret qui se met en place, où là en fait on se met en compte dedans, alors qu'on a rien à voir avec ça, on peut pas le contrôler, c'est une chose qui nous dépasse tous. Comme on disait, on va tous dans le même bateau. Et donc moi je suis dans l'acceptation de ça, en fait je peux pas le contrôler, je peux rien y faire. Même moi, je suis, ça sombre dans une semaine, un mois, un an, je sais pas. J'essaie le plus d'être en accord possible avec moi-même, avec mes envies, mes pensées, et d'avoir aucun regret si un de mes proches part et de me dire, au moins j'aurais fait le plus possible pour être avec lui, profiter de lui. Mm. Donc je suis dans vraiment une phase d'acceptation, en fait, où bah, si la mort arrive, dans tous les cas, elle est là. Donc elle viendra quand elle viendra.
C'est l'âge de la raison, alors on est tous dans l'âge de... Je dois être... C'est peut-être l'étape de la vie où peut-être on sera un peu plus compte de ce qui compte. Je sais pas. Et en même temps, je me rends compte aussi, c'est un sujet qui est hyper tabou, en fait. Et c'est marrant parce que je regardais à nouveau une des citations. Je vous l'avais pas envoyée, parce qu'avant de faire l'épisode, j'avais envoyé une petite lecture à mes invités, un petit devoir. Et
La
vie, certes. Je suis sérieuse, hein. Et il y avait une citation que j'avais pas mis de Osho. C'est un petit peu celui qui m'inspire beaucoup depuis quelques temps. Et il dit: mais tout le monde a peur de la mort. Cela aussi est contagieux. Tes parents ont peur de la mort. Tes voisins ont peur de la mort. Les petits enfants commencent à être infectés par cette peur constante tout autour. Tout le monde a peur de la mort. Les gens n'ont même pas envie de parler de la mort. Et il n'y a que deux tabous dans le monde: le sexe et la mort. C'est très étrange pourquoi le sexe et la mort ont été les deux tabous à ne pas être discutés, à être évités. Ils sont profondément connectés. Le sexe représente la vie parce que toute vie naît du sexe, en théorie, du moins. Et la mort représente la fin, et tous deux ont été tabous. Ne parle pas de sexe et ne parle pas de mort. C'est marrant parce que je trouve qu'il avait fait d'autres parallèles sur ça, sur cette notion que c'est étrange que ça soit deux sujets tabous dans la société, globalement. Je pense qu'à peu près dans toutes les sociétés, ça reste relativement tabou. Et c'est justement dans les sociétés où ce sont des sujets tabous qu'il y a le plus de problèmes autour de ça. Enfin, de problèmes. On met le cache-pot sur ces sujets. On n'en parle pas trop. On ne dit pas les choses. Il y a certaines choses qui ne sont jamais dites. On ne communique pas trop dessus. Et c'est marrant. Je n'ai pas forcément de réponse, mais je trouvais ça assez intéressant de se rendre compte que c'est du sexe que naît la vie, mais la mort est aussi un tabou et... Les deux sont intrinsèquement liés. Je sais pas s'il y a un rapport.
J'ai l'impression qu'en fait les deux sont tabous, parce que c'est les deux où en fait c'est une recherche perpétuelle, en fait. Où le sexe, ça peut être par exemple, est-ce que je suis vraiment de cette orientation-là, ou même maintenant est-ce que je suis vraiment de ce sexe-là. Et la mort, est-ce que je suis vraiment croyant de ceci ou croyant de ceci ou de cela. J'ai l'impression que c'est deux sujets où en gros on n'a jamais de réponse. C'est toujours une quête perpétuelle, et du coup, en gros, ça devient tabou parce qu'en fait, on définit réellement la personne dans laquelle elle est. La politique, je trouve, ça peut être malléable, l'environnement, ça peut être malléable, plein de choses peuvent être malléables, mais genre le sexe ou la mort, c'est des personnes qui définissent intrinsèquement une personne, dans ce qu'elle va penser, dans ce qu'elle va définir, dans ce qu'elle va représenter.
Là, tu parles du sexe en termes de genre anatomie.
Non, tout, en premier lieu d'orientation sexuelle.
Orientation, ok.
Parce que l'orientation sexuelle. Tu
parlais
du sexe.
Je pensais de l'acte sexuel. Ouais, parce que c'est de l'acte sexuel que naît la vie.
Parce que du coup, ça rejoint. Je comprends, ouais. Ça rejoint le truc de. Bah, l'acte, du coup, si tu fais telle chose ou telle chose, tu seras peut-être pas en accord avec toi-même ou dans le même alignement. Mm. Du coup, c'est une recherche aussi de. Est-ce que je fais tout le temps ça parce que c'est ce qu'on m'a inculqué, c'est ce que reprend la société, etc. etc. Du coup, t'es toujours. Un sujet tabou, en gros, ça te met toujours face à ce qu'il y a de plus profond en toi, en fait.
Oui, parce que en plus, ça c'est vrai, et ça fait écho à un des podcasts qu'on a enregistré dimanche, c'est que le sexe, quoi qu'on en dise, même si dans la société actuelle c'est perçu ou c'est vendu comme quelque chose étant juste une friction entre deux corps, basique, physiologique, en réalité, à partir du moment où tu partages du sexe avec quelqu'un, il se passe beaucoup plus de choses que juste du sexe et une friction, en fait. Et là, dans la mort, en fait, t'as aussi énormément de choses qui sont de l'ordre de l'inconscient, de l'ordre des énergies, etc., chose qui est banalisée aussi dans le sexe, en mode, c'est juste deux corps, c'est anatomique, c'est quelque chose qui rentre à la... Alors qu'en fait, non mais, alors qu'en fait c'est beaucoup plus que ça, en fait, tu partages plus que tu... Sauf qu'on a tendance à le banaliser, et tout ce qui est de l'ordre de les émotions, les énergies, machin, c'est quelque chose de... On contrôle pas trop, on maîtrise pas trop, donc on n'en parle pas trop. Je sais pas s'il y a un lien. Ça a dévié, disons, cet épisode. Qui doit... non, mais je sais pas.
Moi, je pense que ne pas en parler, ça crée plus de peur chez les gens.
Ouais.
Parce que quand on en parle, on va éduquer, on va s'éduquer, on va se renseigner, ouais. On va préparer, nous préparer et préparer les gens autour de nous à l'acceptation quand ça arrive, par rapport à la mort par exemple, à toutes les dimensions où se place ce phénomène, que ce soit la mort ou le sexe. Ouais. De mon expérience personnelle, je pense que si la mort était un sujet dans mon éducation avant de le voir... Ouais. Dans la vraie vie.
Si ça avait été évoqué, quoi.
Si ça avait été évoqué, je pense que j'aurais été un peu plus préparée à ça.
Est-ce que tu penses pas que ça soulève du coup une autre question, c'est que pour qu'on puisse éduquer quelqu'un, ça veut dire que il faudrait que tout le monde soit aligné sur une même conception de la mort pour tirer la même leçon et donc en fait t'expliquer comme un livre ouvert, tu vois, avec une comment dire, un petit perdu complètement les mots, mais un manuel, tu vois, qui t'explique que, bah, écoute, la mort, ça arrive, il va se passer ça. Enfin, du coup, c'est vraiment une question ouverte, mais peut-être que ce qu'on pourrait éduquer les gens, c'est les étapes que tu vas vivre, parce qu'il y a quand même... Enfin, je pense que toi, du coup, Sarah, tu dois peut-être être plus au courant que nous, mais qu'il y a toutes des étapes quand tu vis un deuil, il y a plein d'étapes, mais qui sont assez répétitives chez tout le monde. Une fois que tu as conscience de ces étapes-là, ce que ça donne, c'est que l'espoir, c'est que ça va passer. Je pense que le plus important, quand tu te sens justement, pour reprendre aussi ce que tu disais tout à l'heure, que tu es dans quelque chose qui est assez dans la peur de perdre tes proches, c'est que ce qui fait très très peur aussi, c'est de se dire que tu ne pourras jamais t'en relever. Moi, je te garantis que si, dans tous les cas, parce que le corps humain est quand même extrêmement résilient.
La vie est plus forte que la mort.
Tout à fait. Tout à fait, mais ça c'est la prise de recul et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui restent bloqués, qui n'arrivent pas à prendre ce recul, mais c'est en effet, pour rejoindre ce que dit Emira, c'est que si on te préparait à toutes les étapes que tu vas vivre, le choc au début, après tu t'en veux, enfin...
C'est comme une rupture un peu. Quand tu sais, quand tu... Il y a des étapes aussi, genre d'acceptation, de deuil, de machin, de...
C'est un deuil aussi à faire, hein.
Ouais,
c'est un deuil aussi, la rupture émotionnelle. Mais oui, pour te répondre, oui, il y a cette partie-là de voilà la démarche. Quand ça arrive, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais moi, j'avais même, ça n'a pas été évoqué pour moi, même la définition. Ce que c'est, c'est comme si je ne savais pas que ça arrive, ça allait arriver à un moment.
Ouais, ouais.
Ouais, et à l'âge de 5 ans, je pense justement que c'était trop tôt. Donc j'ai jamais pensé à ça, j'ai jamais vu d'exemple, on m'a jamais dit écoute, puisque tu es né, tu vas aussi mourir.
c'est le contrat,
c'est la suite logique, c'est le voilà,
c'est assigné au départ. Voilà. C'est marrant, en fait moi j'ai dit que j'avais pas vécu la mort d'autres de proches, mais la première fois que j'ai vécu la mort, c'était mon arrière-grand-mère quand j'avais 5 ans. Et je me rappelle que ma mère était très très proche de mon arrière-grand-mère parce qu'elle avait été élevée par sa grand-mère du coup, et quand elle est morte, on a été conviés à la cérémonie, machin. Et en fait, ma maman m'avait demandé « Est-ce que tu veux voir le corps de ton arrière-grand-mère ?» Et moi, j'avais dit « Ouais, je veux voir. ouais. » Et en fait, je me rappelle qu'elle était dans une pièce, allongée sur la table. Et ça m'avait fait peur, en fait. Mais elle est froide, elle est blanche, elle est immobile. Et en fait, je m'étais sentie dans un malaise pas possible. Mais parce qu'il y avait toute cette ambiance autour... Parce que tu m'aurais mis au Mexique où ils dansent autour de la tombe en mode fiesta, genre génial, il va vivre sa best life. Et bah, est-ce que tu vois, c'est une question de culture aussi. Parce qu'il y a aussi des pays, bah, typiquement, alors je ne suis pas encore très spécialiste, mais dans la religion hindouiste, pour eux, il y a de la réincarnation. Donc en fait, finalement, ils savent qu'ils vont se réincarner en un animal ou autre chose. Donc en fait, c'est juste un transfert et puis on espère qu'il va repartir dans un bon. un bon animal ou un quoi,
pas une limace ou un truc.
Hey, il y a pas de, hein.
Non, mais c'est vrai que l'ambiance autour Ça construit la mémoire de l'enfant quand tu es très jeune et tu affrontes.
Est-ce que tu transmets aussi après toi à tes générations tout ce que tu as inculqué, après tu le traduis. Donc en fait, si un jour vous avez des enfants, vous feriez quelque chose de différent par rapport à ça?
Moi, avant de répondre à ça, j'allais te poser la question de est-ce que là maintenant tu referais, je le souhaite pas, mais est-ce que tu referais la décision de voir le corps si quelqu'un est amené à passer de l'autre côté?
Alors si c'était aujourd'hui, à l'heure actuelle, j'en aurais peut-être pas besoin. Et je crois que je m'en foutrais complètement.
Tu préfères garder les souvenirs de la personne?
C'est même pas ça, c'est juste qu'en fait, la personne, je m'en rappelle pas en tant que son corps. Tu vois, j'ai pas besoin de voir son corps pour me rappeler de ce qu'elle me représente pour moi.
Ouais, tu gardes plus l'énergie et le lien. C'est vrai. Après, j'ai lu dans beaucoup de ressources, parce que moi j'ai fait mon chemin, je vais peut-être vous parler de ça après, mais j'ai fait mes recherches, etc., pour m'en sortir quand c'était très difficile. Dans plusieurs ressources, on dit que voir le corps, ça aide beaucoup pour accepter, pour faire le deuil. Ça fait presque partie des étapes nécessaires pour faire son deuil.
Intéressant, ok.
Ouais.
Mais parce que ça rend réel la mort.
C'est ça.
Le fait
que
la personne, elle est... Ouais. Ouais.
Parce que c'est vrai que dans plusieurs... Je ne sais pas si toi, Martin, t'es passé par là ou pas. Moi, en tout cas, oui. Il y a beaucoup le déni au début. Il y a beaucoup, beaucoup le déni. Donc moi, l'expérience qui était beaucoup plus marquante que celle où j'avais 5 ans, c'est quand j'avais 21 ans et j'ai perdu mon frère. Donc c'était, il avait 20 ans, donc on était très proches, etc. C'était imprévu, accident de moto. Et c'était très choquant, bien sûr, etc. Et ma première réaction, c'était le déni. Même si j'ai vu le corps, tout ça, on a fait la cérémonie, tout ça, la solidarité de la famille. Mais j'étais tellement choquée, c'est comme si je voulais pas en parler. Je veux juste que tout le monde finisse ses rites et se barre, tout simplement, pour rester avec mon intérieur et voir qu'est-ce que ça a fait à l'intérieur de moi. Donc oui, c'était très très dur et je maîtrisais pas encore la notion de deuil, tout ça. Du coup, j'étais dans le déni, mais je savais pas que j'étais dans le déni. Je pensais avoir fait mon deuil, mais c'était pas le cas. Et quand est-ce que j'ai compris que j'ai pas fait le deuil? C'est 9 ans plus tard, suite au décès de mon père, qui a résonné du coup avec... le premier choc très proche qui était le frère. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a un deuil qui n'a jamais été fait. Et tout a commencé à s'amplifier.
Tout. C'était quand ces 9 ans après? C'était quand?
C'était en 2019.
Ok.
Donc il y a 4 ans.
Une fois que t'étais arrivée en France déjà?
Ouais, j'étais en France. Ça faisait peut-être un an que je suis là. Et il y a aussi la dimension de tu l'apprends quand t'es pas à côté de ta famille. Ma famille est en Tunisie, moi je suis en France, donc le fameux coup de fil pour dire il y a ton papa qui est parti, tu dois venir tout de suite. Donc ça, c'est une autre dimension qui complexifie encore comment tu traites l'information. C'est un cauchemar, mais...
Et là, par contre, t'as décidé de l'attaquer vraiment, ce sujet? Est-ce que c'est à ce moment-là où t'as peut-être vu quelqu'un ou...
Ouais, alors oui, le décès du père était encore plus bouleversant que le décès de mon frère, parce que c'est le deuxième coup, déjà. Déjà, après le décès de mon frère, moi, c'est là où j'ai développé une angoisse de perdre un proche, parce que je l'ai vécu. Je pense que avant, j'avais même pas peur. Avant le décès de mon frère, je pense que ma relation avec la mort, c'était juste, je veux éviter, je veux pas y penser. C'est un concept.
C'est une question abstrait. C'est une question d'âge aussi, je pense. Pendant longtemps, on l'évite parce qu'on a.
C'est ça, on l'évite même. Bah oui. J'y pense pas, c'est un sujet, même quand j'y pense, c'est un peu...
C'est flou.
Cringe, tu vois. T'es pas à l'aise avec le concept, tu veux pas y penser. Donc après, je l'ai vu en concret, ça a tapé très très proche, donc le décès de mon frère. Et c'est là où j'ai commencé à flipper complètement. J'étais angoissée que ça arrive une deuxième fois dans la toute petite famille.
Pour tes proches, pas pour toi.
Pour mes proches, ouais. Pour mes proches, non, pas pour moi.
C'est marrant parce que souvent, d'ailleurs, quand les gens sont angoissés à ce sujet de la mort, c'est jamais pour... Enfin, c'est rarement pour eux-mêmes. Sauf dans certains cas de gens qui sont paniqués, machin. Mais c'est rarement pour soi-même. Pourquoi ?
Bah, j'ai l'impression que c'est plus pour le mal qu'on peut faire aux gens, plutôt que ça va nous faire, parce que nous, on va pas le ressentir, la mort, au final. C'est plus l'impact que ça aura sur les gens derrière, et vu qu'on les aime...
Mais non, parce que du coup, les gens ont plus souvent... Non, en général, les gens, genre toi, moi, machin, on a plus peur de perdre nos proches que de se perdre soi.
C'est parce que perdre ton proche, c'est ce qui va te faire mal.
À toi.
À toi.
Donc tu penses à ta douleur.
Mais toi, quand tu meurs, tu te dis, je sentirai rien. Voilà, tu penses à ta douleur.
Je pense qu'on a toujours aussi une notion à se sentir beaucoup plus fort que les gens qu'on aime, en fait. Les gens qu'on aime, on se dit qu'on peut... Les gens que t'aimes, tu... Enfin, je sais pas, mais je pense qu'intrinsèquement, t'as envie de les protéger. Donc du coup, la manière de protéger, c'est de leur éviter le deuil, tu vois. C'est leur éviter le malheur.
Mais non, mais là,
tu
parles de ta mort à toi. Si tu leur évites ta mort, c'est de leur éviter le deuil à eux.
Oui, mais au final, la mort d'autres proches que eux, ils aient à subir. Toi, tu dis que tu vas être plus fort, tu vas l'encaisser, tu vois.
Ah
mais,
oui, je pensais
que
pas. Je le voyais sous le prisme de si je perds un proche, c'est moi qui me retrouve tout seul. Et c'est beaucoup relié aussi à la peur d'être tout seul, tu vois. Enfin, moi, je le vois aussi, genre, qui je suis sans mes proches, qui sont mes repères.
Bah, après, peut-être que c'est quelque chose et c'est propre aussi à chacun. Moi, je sais que ça me ferait plus peur, par exemple, de faire ressentir ce mal-là, cette douleur-là à des gens que j'aime vraiment du plus profond de mon cœur, enfin plus précisément à ma mère et à ma petite sœur aujourd'hui, que de le revivre moi, si tu veux. Parce que moi, je me dis, et peut-être que je suis con de penser ça, mais je me dis, mais moi, ça va. Enfin, tu vois, j'arriverai à le revivre encore et à le surmonter, mais je pourrais pas... vivre et supporter de voir ces gens-là particulièrement
souffrir
et re-avoir mal comme je les ai vus avoir mal, si tu veux. Et enfin, je sais pas si c'est ça que tu voulais dire, Emira, de base.
Ouais, c'est en fait, je pense qu'on a tous très peu ou beaucoup de peur par rapport à la mort d'un proche ou par rapport à nous. Je pense que c'est jamais le même. le même pourcentage, ce que t'en penses, toi.
J'ai envie de faire un point avec ce que t'as dit au tout début. Là, Martin vient d'un truc, et au tout début, t'as dit, ma première approche de la mort, où j'ai conscientisé, c'est quand j'ai vu mes proches être tristes.
Ouais.
Et là, en fait, je pense que c'est tout ce qu'on a peur, peut-être que c'est un truc qui est dès dans l'enfance, où quand on était petit, on conscientisait pas le fait qu'était la mort, mais on l'a compris sur l'impact que ça a sur les gens.
Ça. Parce qu'en
fait, c'est un truc qu'on a tous peur, où nous, si on meurt, bah, d'accord, ok, enfin, nous, si on meurt, mais on sait que ça va faire mal aux autres. Alors que si quelqu'un meurt, peut-être plus dans l'acceptation.
Et c'est surtout que, imaginons une culture où il n'y a pas cette notion de tristesse et tout. Admettons, on est dans une culture où il n'y a pas tout ça. Et genre, t'es un enfant, t'as tes parents, machin, et t'as ton papa qui meurt à la chasse. Bon, je vois, du sanglier, machin. Dans une autre culture, vraiment, où il n'y a pas de ces notions-là. Et bah, est-ce que, s'il n'y avait pas cette notion-là, que juste, bah oui, bah ton père est mort à la chasse, bah ça arrive. Est-ce qu'on aurait la même perception de la tristesse générée, ou est-ce que c'est quelque chose de culturellement inculqué, que c'est quelque chose dont il faut se. Genre, tu vois? Parce que si c'était quelque chose de banal, de genre, bah oui, ça arrive, genre, bah, j'extrapole énormément. T'as des moustiques dans ta truc, tu tapes une truc, il est mort, bon, bah, c'est fini, tu vois, il est juste plus là, il te dérange plus. Bon, j'ai extrapolé vraiment très loin, là. Non, ça se passe tout le temps, ça, quand j'enregistre le podcast, je le coupe, pas vrai. Mais,
après, oui,
la vie humaine et moustique, c'est quand même incroyable.
En fait, je pense que tout le monde est au courant que ça arrive à tout le monde.
Oui,
c'est pas.
Mais
c'est
par contre, par contre, je pense vraiment sincèrement que dans notre société actuelle, il y a énormément de gens qui sont dans une attitude vis-à-vis de la vie où ils sont dans un déni total de. Je me demande s'il n'y a pas certains comportements qui sont quelque part une fuite de éviter le sujet. Je pense, là, j'extrapole encore, mais je pense notamment aux gens qui boivent, aux gens qui, enfin, trop, qui boivent trop pour oublier ou qui vont dans des comportements pour profiter de la vie. C'est là tout le terme de profiter qui prend son sens. Jusqu'à quel point c'est la notion de profiter ou de fuir certaines choses, tu vois. Je sais pas, je me demande si parfois il n'y a pas certains comportements qui sont des comportements de fuite, en fait, de la réalité.
Mais tout le monde sait que tu peux pas fuir la mort.
Et oui, tout le monde
le
sait.
Je pense que profiter de la vie et croquer à plein dents, etc., c'est plus pour fuir l'ennui, le vide.
Mmh.
On a cette obsession de remplir notre temps avec des choses, etc. Mais c'est pas fuir la mort. Personne ne peut fuir la mort.
Ouais, mais...
Et je pense que ça amène aussi à un autre truc, c'est que... Au final, est-ce que l'opposé de la vie, c'est pas cette espèce de non-vie ? Donc en fait, au moment où... Moi, j'appelle la non-vie, c'est tout l'inverse de ce qu'aujourd'hui je serais si jamais j'avais pas décidé. Tu vois, on en revient au même à ce que tu disais tout à l'heure, de qu'à un moment, tu choisis. Je vois très bien ce que tu veux dire en disant ça. C'est qu'en fait, tu fais les choix de ta vie. À un moment, si tu te complais pas dans ta vie, si t'es pas heureux de la vie que t'as, qu'est-ce qui t'empêche de tout changer, en fait? Il y a beaucoup de choses qui font peur. La majorité des gens se mettent énormément de barrières, en fait.
Genre?
Je sais pas, des stéréotypes de gens qui, enfin, tu le vois, c'est des profils de personnes qui font que de se plaindre au final et au final, mais qui ne changent rien, tu vois, et ils restent à se complaire dans cette non-vie, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est la non-vie. C'est juste de pas, vivre la vie comme t'aimerais la vivre, en fait. De pas être ce 2.0 de toi-même, en fait.
2.0.
Mais c'est ça, c'est un 2.0. Je pense qu'au final, quand t'es confronté à la mort et que tu comprends tous ces trucs-là, c'est une source qui fait que derrière tu comprends ça. Et je pense qu'il y a d'autres sources, t'es pas forcément obligé d'être confronté à la mort. Mais c'est cette envie de devenir le 2.0, qu'est-ce qui t'empêche d'être qui t'as envie d'être, en fait?
Mais il y a tout ça qui
aujourd'hui,
je pense sincèrement qu'il y a des gens qui ne se posent pas la question.
Et c'est ça qui est extrêmement triste.
C'est la non-vie.
Voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est pas la mort, c'est la non-vie.
Mais il y a une
c'est l'entre-deux qui est terrible, quoi.
Mais il y a une quantité, mais faramineuse, de gens. Tu échanges avec eux, c'est chouette et tout machin, mais enfin. Et alors ?
Ils creusent pas plus loin.
Et alors ? Tu vas où, comme ça ?
On en revient à ça, c'est que au final, de vivre. Qu'est-ce que c'est de profiter de la vie ? Pour moi, c'est de vivre sans regret. Et ces gens-là, au moment où ils arriveront à un corps qui est défectueux, où ils seront plus capables de faire, ils se diront, mais toutes les choses qu'ils n'ont pas faites, en fait. Alors qu'ils auraient pu les faire, tu vois. Peut-être, et tant mieux, parce qu'ils mourront sans ces regrets. Ouais. Je pense que l'intérêt, c'est de vivre sans regrets. Mais
c'est quoi que t'as, c'est quoi le Martin 2.0?
Avant, j'étais très introverti. Je m'ouvrais pas tellement aux gens. Je suivais une ligne que je pensais qui m'était imposée. J'avais fait une école de commerce à l'époque. Putain, mais quelle erreur. J'en veux pas. Il y a peut-être des gens qui kiffent ça. Enfin, en tout cas, moi, c'était pas mon dél, tu vois, pas du tout. Et du coup, j'avais l'impression d'être pas honnête avec moi-même. On en revient à ce que disait Louis tout à l'heure. C'est que il y a un moment où il faut être honnête avec soi-même et se dire, mais qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie, quoi?
Être aligné avec ses envies.
C'est dans ce que toi, c'est ce qui te fait kiffer, ouais. C'est dans ce que toi, tu fais pour toi, mais aussi dans qu'est-ce que tu mets dans ta vie au quotidien, les rencontres,
c'est un tout, en fait. C'est les rencontres que je fais. Je pense qu'aujourd'hui, j'arrive à faire le tri très très vite entre les gens qui vont m'apporter quelque chose, mais c'est pas juste d'un point de vue de qu'est-ce que tu m'apportes, parce que ça c'est hyper auto-centré, mais plus dans le sens où est-ce que moi je vais leur apporter quelque chose, où il va y avoir vraiment un échange qui va être intéressant pour l'un et l'autre et pas juste une conversation de surface, si tu veux. Tout ça, il fait beau aujourd'hui, ouais, très bien, il fait moche, très bien, je m'en bats les couilles, mais tu sais, coupe au montage. mais tout ça c'est parce que t'as envie, ce que t'as envie, c'est de vibrer. C'est de vibrer dans tes expériences.
À ces envies. Moi, je pense ce que tu apprends grâce, je dis bien grâce à des expériences comme ça, c'est ça te pousse à cultiver d'autres choses. Je pense juste que c'est une nouvelle graine qui est dans la tête, en fait. C'est de là que tu peux faire naître ton 2.0. C'est pas juste, ok, maintenant qu'il m'est arrivé ça, ma vie va devenir comme ça, ma to-do list, mon quotidien, je sais pas quoi, les gens...
C'est un process.
Non, c'est plus, tu arrives à trouver des nouveaux compromis avec toi-même, tu arrives à... Il y a une nouvelle version de ton dialogue intérieur. Et quand tu deals avec tout ça à l'intérieur et tu trouves une petite formule, un petit common ground entre tout ça, c'est là où tu commences à accepter et puis redémarrer un peu, reprendre le fil de la vie avec le 2.0.
Et je pense qu'il y a tout un truc aussi qui est lié aussi à la société, parce que je pense qu'il y a énormément, tu te parlais tout à l'heure des gens qui sont dans cette non-vie, je sais plus comment dire.
C'est dur à dire, ouais. C'est un
qui sont... Chalons. Qui sont dans une vie, mais tu sais, qui au final sont pas heureux dans ce qu'ils sont en train de vivre.
Mais ils s'en rendent pas forcément compte.
Ouais, ouais. Et je pense qu'il y a quand même une part qui est vachement liée au jugement de la société. Parce qu'on te dit pas que forcément ce que tu aimes. Enfin, après, là, je sais pas, parce que je vais parler de choses hyper subjectives, mais je sais que. Pour moi, ça c'est peut-être une autre discussion, mais justement, ces choses aussi fortes et aussi profondes, ça fait que forcément, tu as des. Écoutez-moi si jamais vous n'êtes pas d'accord et je suis très prêt à l'entendre.
Mais il n'y a pas de vraie ou de bonne réponse, il n'y a pas de bonne réponse.
C'est moi, je sais que ça m'a énormément aidé tout ce qui va être artistique.
Ouais.
Parce que c'est un moyen de démonstration, c'est un moyen de. Aussi d'extrapoler ce que toi t'as vécu et de comprendre qu'il y a des choses, enfin il y a d'autres personnes qui ont vécu aussi des choses et c'est qu'une histoire de sentiment, que ce soit dans n'importe quel art, tu exprimes quelque chose et si t'es en capacité et que t'es sensible à ça, tu peux recevoir ou ressentir les choses grâce à ces choses-là, tu vois, que ce soit la musique, que ce soit le cinéma, que ce soit la peinture, que ce soit la poterie, que ce soit tout ce que tu veux.
En fait, c'est marrant parce que ça fait exactement écho à. Tout ce même, mais c'est exactement le même fondement, c'est que je pense que quand tu commences à te poser ces questions-là de qu'est-ce que je veux dans ma vie pour me sentir heureux, fatalement tu te mets à te poser des questions de qu'est-ce qui me fait naître des émotions positives, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur, etc. Donc en fait tu rentres à l'intérieur et par le biais de la mort parfois, du coup tu plonges dans des émotions auxquelles on n'est pas confronté d'habitude. Or, on est dans une société, si je résume, qui la vie normale des gens qui ne se posent pas de questions ne descendent pas dans le corps des émotions. C'est quoi qu'il y a dessous? C'est quoi que ça te génère? Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que ça te rend ému? Est-ce que ça te fait des papillons? Est-ce que ça te rend en colère? Est-ce que ça te rend frustré? Est-ce que ces gens-là ne sont pas descendus dans le corps pour sentir ces choses-là? Donc comment est-ce qu'ils peuvent les faire remonter pour se rendre compte qu'en fait, ce qu'il y a au-dessus, bah, ça sonne faux. Le vrai problème, c'est que nous, dans notre société, on n'est pas éduqués en tant qu'enfants en général, on n'est pas éduqués à descendre en bas. Et quand tu es confronté à des situations difficiles, de mort, de maladie, de difficultés, c'est pas obligé de passer par la mort, ça peut être des choses plus matérielles, mais des fois, tu es obligé, par le fait des circonstances intérieures, de descendre dans les émotions qui sont dessous. Tu vas peut-être travailler avec un psy ou autre pour les faire remonter, te rendre compte, ah ben, putain, en fait, j'avais pas réglé ça quand j'étais gosse, et en fait, c'était ça que j'avais refoulé, machin. Ça fait remonter des émotions que tu n'avais jamais travaillées avant, et tu te mets à te poser des questions autour de ces émotions. Et or, l'art est un moyen d'exprimer ces émotions-là, et je pense que c'est aussi pour ça que souvent, les artistes sont des gens qui ont touché ces émotions-là par des choses difficiles, ou par des expériences difficiles, par des deuils, par des ruptures, par des maladies, par tout ce que tu veux, qui ont été qui les ont forcés, parce qu'ils ont accepté d'y aller, de plonger dans les émotions et de dire « Ok, je vais travailler ça, on va dealer avec les gars. » Et du coup, après, une fois que c'est remonté, tu ne peux plus jouer le jeu, tu ne peux plus faire la comédie, tu ne peux plus porter le masque que tu avais porté avant. C'est plus possible, ça ne marche plus. Parce que ton corps, il est, et c'est aujourd'hui, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira ce podcast, mais et c'est aujourd'hui où il y a une dissonance totale entre le métier que je le fais et le quotidien que j'ai avec les personnes avec qui je suis, qui font que ça ne vibre tellement pas à l'intérieur qu'à un moment donné, tu te lèves et tu te casses. Tu te dis, ok, en fait, non, c'est plus possible.
Non, elle a l'envie.
C'est ça. Mais du coup, et c'est aussi tout peut-être l'enjeu de travail psychothérapeutique, c'est qu'on a tendance aussi à stéréotyper le métier de psychothérapeute, etc. Mais pourtant, c'est probablement les seules personnes qui sont en capacité d'aller, pas que, mais d'aller te faire creuser là-dessous et d'aider à faire remonter les trucs qui étaient « Regarde, t'as vu, c'était caché là. » Après, une fois que tu fais ce travail-là, soit tu les refourgues au fond, soit tu deals avec et tu dis « Ok, bon, je prends des choix.
» Justement, tu me demandais tout à l'heure, tu disais « C'est là où t'as commencé ta thérapie. » Moi, j'ai pas commencé la thérapie tout de suite après le décès de mon père. J'ai vécu une période beaucoup plus sombre, d'abord. Encore le déni, des résonances entre deux, etc. Bon, il y avait des détails qui ont compliqué l'histoire parce que je me suis réfugiée au travail, j'ai commencé à travailler
12 heures par jour,
des semaines de 60 heures, etc., avec l'isolation de la période Covid, tout ça, donc c'était vraiment horrible. Et c'était une suite logique parce que moi, pour faire vivre ce papa, qui était un grand repère pour moi,
je me suis mise à travailler beaucoup plus parce que pour moi, lui, ce qui m'a appris le plus, c'est le travail dans la vie. Donc, c'est la valeur qui me lie à lui. Et après, bah, résultat, burn-out.
Oh! Maladie ô combien fréquente en France en ce moment?
Voilà.
Est-ce qu'on a un pourcentage
de burn-out?
Ouais.
Bah, entre les déclarés et les non-déclarés?
Beaucoup trop.
Beaucoup trop. Mais heureusement, il y a des psychologues pour le travail pour ça.
C'est ça. Ouais. Donc, c'était l'élément déclencheur, ce burn-out. Parce que, évidemment, avec ma psy, on ne parle pas de problèmes qui étaient nés il y a 2 ou 3 ans. On parle de problèmes qui étaient là depuis que j'étais enfant. Mm. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de problèmes que j'ai mis un peu sous le tapis, comme ça, en pensant que ce n'est pas prioritaire. Et après, tout ce cumul-là, c'est là où j'ai touché le fond. C'est là où je me suis dit, bon, c'est vraiment maintenant
ou
jamais la thérapie. Et j'ai commencé à me faire suivre. Et bah, pendant des mois, je n'ai pas vu les résultats. J'étais impatiente. Ouais. À la limite, je croyais... Enfin, j'étais convaincue et j'allais toutes les semaines, etc. Mais au fond de moi, je me dis, est-ce que c'est efficace? Est-ce
mais
que c'est vraiment le bon chemin?
Ça
fait 7 mois, ça ne donne pas de résultats.
Et si je peux te rassurer, ça fait... 11 ans. Alors, écoute ça.
Et je pense à tous les budgets toujours... qui ne sont pas remboursés par la Sécu.
Et malheureusement, franchement, on devrait avoir un truc. Et franchement, l'État, je ne sais pas ce qu'ils attendent, parce que franchement, il y aurait bien plus de gens. Mais
c'est grâce à la thérapie, mais en plus, le mindset que j'ai adopté un petit peu. Dès que j'ai commencé à voir les résultats de ma thérapie, j'ai commencé à être un peu plus dans l'acceptation, petit à petit.
Ça prend du temps.
J'ai changé un peu. Ma perception de ce que c'est la mort, ce que c'est la vie. Justement, tout à l'heure, on parlait de est-ce que la mort, c'est une fin? Et j'ai vraiment switché de la mort, c'est la fin de la vie à non, la mort, c'est juste une étape.
Mm.
Et j'ai plutôt hâte de mourir pour se revoir avec ceux qui nous ont quittés.
Alors, hâte ou pas inquiète?
J'ai plus peur de mourir. Je suis pas inquiète, mais je pense que la mort de mon frère et mon père a beaucoup à faire avec ça. Ça veut dire que parce qu'ils sont partis, ça m'aide aujourd'hui à ne pas avoir peur de mourir moi-même. Parce que je me dis, bon, dans les deux cas, si je reste, c'est bien. Parce que j'ai des gens que j'aime ici.
Et si je pars,
j'ai aussi des gens que j'aime là-bas.
Ils m'attendent là-bas. Ouais.
Voilà. Ce fera un petit apéro.
Et toi, du coup, ça serait quoi, toi, pour toi? Comment tu verrais? C'est quoi que tu mettrais derrière le mot profiter? Alors, c'est pas le mot idéal, je trouve, mais...
Ouais, vivre.
En fait. C'est quoi qui te fait vibrer? C'est quoi que tu mets dans ta vie? C'est quoi les gens que tu fais rentrer? C'est quoi tes critères de te dire ok, là, en ce moment, je sais que je lui rends honneur à la vie, au fait d'être vivante, d'être en bonne santé, etc. C'est quoi qui te ferait te dire je suis alignée, tu vois? Parce qu'on n'a pas tous les mêmes éléments, tu vois.
Bah, quand tu commences à ouvrir les yeux, tu commences aussi à beaucoup faire de tri dans ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, tes croyances, tes pensées, tes activités, tes passions et les gens autour de toi. Tout, en fait. Et moi, mon approche, c'était chercher toujours ce qui me donne du sens.
Ouais.
Que ce soit le travail, les activités, etc. J'aime beaucoup l'art, comme disait Martin, et c'est quelque chose qui m'a toujours aidée à... Même les petites crises d'adolescence et tout ça, c'était toujours la musique ou la peinture qui m'aidait à...
Mais on est, donc, on est
dans mon quotidien aujourd'hui, c'est ça ta question? Mon 2.0, c'est ça?
Ouais.
Mon 2.0, c'est quelqu'un qui cherche le sens, la vraie énergie, enfin, l'authenticité. Si on peut résumer
et c'est
ça.
Difficile dans une société où on est matrixé par tous ces dictats de la réussite. La réussite, avoir d'argent, avoir...
Mais ça, c'est que je pense que de base, dans l'éducation, dès le collège, ouais, enfin, je sais pas à quel moment le dater dans son âge de vie, mais c'est qu'on t'apprend pas du tout, en fait, à respecter ce que t'aimes. On t'apprend à... Enfin, c'est peut-être pas le mot respecter, mais en tout cas, c'est pas prioritaire.
On se met dans des cases.
Ce qui est prioritaire, c'est... Non, c'est... Enfin...
Les études...
Ouais, mais après, tu peux faire des études dans ce que t'aimes, c'est pas pour autant que c'est ça que tu vas faire des milliers d'essences,
oui,
tu vois, c'est pas avec ça que tu vas devenir millionnaire, mais il y a tellement de trucs... Enfin, maintenant, quand tu vois
des vidéos de tutos de gens qui t'enseignent comment devenir millionnaire en 10 étapes. Enfin, tu vois, genre, tous ces trucs-là.
Il y a aussi un gros bullshit autour de ça, mais ça fera l'objet du prochain, de la prochaine table ronde. Mais...
De quoi, les douches froides?
Les douches froides, genre, j'ai fait la Wim Hof et je...
Non, mais je pense que c'est ça, c'est que... Et en fait, on les t'enseigne tellement ça... On t'enseigne tellement ça qu'au final, ta priorité, c'est pas ton bonheur personnel. C'est, la réussite, elle est pas mesurée là-dedans, dans la société. Enfin, après, peut-être que c'est notre point de vue occidental. Tu parlais de culture tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'il y a d'autres cultures qui sont différentes. C'est en ça que
c'est
important aussi d'aller voir d'autres cultures. Quand tu vas, par exemple, en Indonésie, tu vas dans des cultures... Où, enfin, moi, c'est des expériences asiatiques en général, mais c'est des gens... Moi, j'ai jamais vu des gens aussi heureux que, par exemple, au Cambodge.
Ils ont rien.
Tu vois. Ils ont rien. Y a, les enfants, ils sont à poil. Ils ont pas de vêtements. Enfin, ça veut dire la même chose. Non, mais ils ont des chaussures, elles sont flinguées. Et pourtant, c'est des gens, ils ont un smile incroyable quand tu joues au football avec eux. Enfin, quand tu joues au ballon avec
eux. Mais tu sais que c'est au Bhoutan. C'est au Bhoutan. Il y a ils ont le PIB et ils ont le bonheur national brut en indexation, en indice.
Ah ouais.
De mesure de la richesse du pays. C'est le seul pays, hein. C'est pas le jour où Macron il va mettre ça en place, mais.
Non, on regarde même nous notre modèle européen. On est là à regarder les États-Unis, à regarder l'Allemagne, la France, etc. Mais quand tu regardes le taux de bonheur dans des pays, c'est quoi? C'est la Finlande, c'est la Suède, où il y a vraiment une, je trouve en tout cas une avancée sociale, étatique, qui est bien au-delà de la nôtre, dans l'acceptation de
qui on est,
qui tu es, t'as le droit d'être qui tu es en fait.
Et j'en reviens aux émotions.
Et personne
mais...
te juge. Tu
c'est
vois.
Ça, et j'en reviens aux émotions, mais c'est dans ces pays-là où t'as des éducations au travail des émotions dès le plus jeune âge, dans les écoles.
Tout à fait, ouais. Tout à fait.
Mm. Toi, ça serait quoi c'est quoi ton Louis 2.0?
La meilleure version de moi-même?
Ouais.
Comment la devenir ou ce que.
Ce que tu mets en place pour kiffer, quoi.
En fait, ça revient sur avoir le moins de regrets possible. Hein. En soi, moi, tout ce que j'ai mis en place là actuellement, c'est. En vrai, j'ai fait la part des choses sur ce que j'avais avant et mon état de bonheur. À quel point il était, à quel niveau il était. Je me suis demandé, en fait, donc, ok, est-ce que ces choses-là m'apportent du plus ou m'apportent du moins? Est-ce qu'elles m'apportent du plus instantanément ou sur du long terme?
Ouais.
Donc, en fait, j'ai fait le plus ou moins sur toutes les choses que j'avais dans ma vie. Et j'ai fait donc les petites additions du plus ou moins sur le long terme ou sur le
Excel,
sur le court terme.
Excel, tableau, somme, moyenne.
Tableau, croisé dynamique.
Ok, putain.
Total. Non, total. Vraiment, les formules, on croise les feuilles, tout.
Putain.
Non. Non, plus sérieusement. Non, j'ai vraiment fait le pour et le contre dans tout, dans ce que j'étais avant, dans ce que j'aurais pu être. Et en fait, je me suis projeté dans, ok, quelle est la version 2.0 de moi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle soit? Et du coup, je me suis dit, ok, donc si je veux atteindre ça, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève dans ma vie? En fait, plutôt que d'ajouter des choses, j'ai voulu retirer des choses pour m'approcher du bonheur.
Okay.
Et donc, en fait, du coup, je me suis dit, ok, bon, ça m'éloigne de tout ce que je veux être. Et du coup, j'enlève. Et en enlevant toutes les choses qui pouvaient m'éloigner de mon être et de mon alignement avec mes envies et ce que j'aurais voulu être. Bah en fait, les choix sont très simples. En fait, tu choisis plutôt de choisir des plaisirs instantanés ou des pulsions ou des envies, en fait, qui sont même pas les tiennes, mais c'est
la dopamine. La dopamine.
Elle est partout.
Elle est partout.
Derrière toi. Non, mais voilà, mais en vrai, on en rigole, mais c'est vrai que la dopamine, il y a le côté psychologie, mais il y a aussi le côté neurotransmetteur, neurosciences, où on se rend pas compte qu'il y a plein de comportements qui sont dicté en fait par notre cerveau, par notre estomac, par nos envies en fait. C'est des chemins qu'on prend pour donner une bonne image à des gens en fait. C'est comme si vous traversiez un champ de maïs. Et en fait, quand vous prenez un autre chemin, plus vous prenez ce chemin, et plus il va devenir un chemin distinct.
Mm-hmm.
Donc, en fait, vos habitudes d'avant, c'est un chemin distinct. Par exemple, on va dire fumer une clope. Dès que je bois de l'alcool, je fume une cigarette, il y a un chemin qui est tracé. Si je veux tracer un autre chemin, en fait, cet autre chemin, à force de le tracer, de prendre cette habitude de « je ne veux pas ça », en fait, je tends vers le quoi je veux devenir. Et en fait, j'ai l'impression que le 2.0, en fait, c'est se poser la question de vers quoi j'ai envie de tendre. Et moi, ça a été d'enlever plein de choses dans ma vie, en fait.
Et t'as enlevé beaucoup de choses? Des gens, des choses?
Des gens, pas vraiment. J'ai plus enlevé mon rapport à eux, à l'importance qu'ils pouvaient avoir sur mes sentiments ou sur mes a priori. Enfin, sur mes sentiments, je veux dire. Donc, en fait, il y a des gens que je fréquente encore qui sont...
Sympas, mais c'est
sympa,
plus...
Sympas, mais sans plus. Et en fait, le temps fera le...
les cases.
Le temps fera naturel, en fait. Et en fait, je les garde encore, parce que je sais pas, je trouve que parler avec des gens, rencontrer des gens, écouter les histoires des gens, c'est hyper enrichissant. Parce que même si on fait notre propre expérience, les autres gens... je suis un peu le dictat du... l'inverse de l'enfer, c'est les autres. Bah...
Ça peut être.
S'enrichir des autres, quoi, en fait.
J'espère que c'est une bonne soirée 2.0 ici. Je veux pas mettre trop la pression, mais.
Ici, on rigole pas. C'est sérieux.
Putain. Ah, c'est sérieux.
Non, mais en vrai, ouais, je sais pas. 2.0, je trouve, c'est enlever beaucoup de choses, en fait. Plutôt que d'ajouter des choses pour avoir du bonheur, je trouve, c'est enlever beaucoup de choses. Plus on a de légèreté. Au final, on parlait de. D'autres régions du monde qui ont d'autres manières de penser, et je trouve qu'en fait. C'est ceux qui ont le moins qui ont le plus. Dans le sens où, en fait, c'est eux les plus heureux, en fait, au final. Ouais. Martin, il disait que c'est eux qui avaient le moins. Au final, quand ils jouent au foot, ils ont un sourire. Bah, c'est ceux qui ont le moins qui ont le plus. Parce que nous, on est là à se poser plein de dilemmes dans la société occidentale de est-ce que je suis cela, est-ce que je suis ce métier,
est-ce que je suis assez bien,
se poser plein de questions sur plein de choses qui ne sont pas intrinsèques à nous, mais qui sont juste des accessoires et des étiquettes qu'on se met sur nous-mêmes. Donc, en vrai, plus on enlève l'étiquette, plus on sera heureux.
Mais ça, du coup, tu vois, moi, personnellement, je vois d'autant plus la différence maintenant versus il y a un an ou deux, même il y a 6 mois, tu vois. Vraiment, il y a eu un gap énorme et où même dans une soirée typique où tu as du tout venant, entre guillemets, bah tu vois directement des gens avec qui tu sens qu'il y a un même niveau de conscience, je sais pas comment dire, et où en fait, t'as même plus à... sortir des gens de ta vie, mais c'est juste que il rentrera pas. Il rentrera pas du tout. Il est gentil, mais il rentrera pas. Et c'est horrible, mais il y a un tri qui se fait comme ça énormément. Et ça me fait penser aussi à un des épisodes qu'on avait fait, mais on en a reparlé dimanche quand on a enregistré avec Pierre, c'est le circuit de dopamine qui est très très souvent activé, et on est dans une société où on est drogué à la dopamine et au plaisir immédiat, les réseaux sociaux, le téléphone, le porno, pour ceux qui sont dessus. Enfin, tous ces trucs-là où, en fait, c'est du plaisir
encore.
Et de la satisfaction, de la drogue, l'alcool, le tabac. Bon, le tabac, c'est ce qu'on peut, mais...
Je pense que ça revient à autre chose. Tu vois, c'est que là, on parlait vachement de ta manière d'appréhender la vie et de tout l'aspect psychologique. Mais au final, il y a tout aussi l'aspect physique, de comment tu te fais du mal à ton corps.
Mais c'est ça.
Et tu vois, par exemple, c'est ça, si on en revient à chaque expérience. Moi, mon expérience, c'est que je pense que tout le psychologique, j'ai fait le chemin et j'ai trouvé le chemin pour aller bien.
Mais
tout le côté physique, je suis dans une destruction. Enfin, pas moins qu'à un moment, mais j'ai pas, je suis pas dans un truc où, par exemple, je fume, tu vois, c'est anonyme. Maman, n'écoute pas ça. Oui, la consommation de drogue, ça a été un sujet, c'est toujours un sujet, et c'est pas un problème, si tu veux, c'est pas un truc où...
C'est un truc qui te fait culpabiliser ou pas?
Non. Enfin, sur certains moments, oui, mais...
Mais on peut pas se culpabiliser à mort de tout non plus. Enfin, typiquement, je vais juste une petite mini parenthèse, par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Je me mets une pression parfois de ouf à prendre soin de mon corps plus parce que j'ai failli y mourir. Et du coup, je me dis, j'ai plus le droit à l'erreur et je dois être parfaite et je dois toujours manger à fond bien, ne pas fumer, être à fond, ne pas boire d'alcool, faire du sport mais pas trop parce que sinon c'est pas bon, nanana. Et des fois, tu sais aussi, tu te mets trop une pression, genre tu peux pas être parfait en fait. Genre.
Ouais, tu te mets une pression, ça c'est sûr qu'il faut pas se la mettre de manière énorme, mais. En fait, tu te bats avec toi-même parce qu'en fait, c'est des habitudes que t'avais. Et en fait, tu sais en fait ce qui est bon pour toi. Et donc en fait, quand tu te dis ouais, faut que je mange absolument bien, que je ne fume pas cette chose, parce qu'en fait, tu sais que c'est pas bon pour toi. Donc en fait, tu vois, je trouve que tu peux avoir des écarts. Bah en vrai, j'avoue que c'est anonyme. Du coup, on peut dire des choses. J'avoue, Martin. Moi, j'ai arrêté la clope. Moi, j'ai arrêté la clope, j'ai arrêté la drogue depuis un an et demi maintenant.
C'était quoi comme drogue?
Bon, on a pris pas mal de choses. Hein. On a commencé par l'ecstasy, on a fait la cocaïne, on a fait la kétamine. Non, mais c'est vrai que c'est anonyme, du coup, on peut en parler, faire profiter aux gens.
Fais gaffe parce que je suis pas. Non, je rigole. Et de toute façon, en vrai, qui n'a pas touché?
Ouais, d'autres générations, en final, je pense qu'on a peur, comme il a dit, on a peur des parents, juste qu'ils entendent ça, tu vois. C'est juste que ça revient un petit peu de la mort, c'est pas ce qui nous atteint nous, c'est ce qui pourrait faire mal aux autres, tu vois. Si on fait un point un peu sur la mort, c'est ce que nous on prend, si nous on meurt, ça serait. Ce que la drogue comprend, le fait que les autres le sachent, c'est ce qui ferait plus de mal, tu vois. Ah. Que nous, au final, le regard qu'on a de nous-mêmes sur le fait de prendre la drogue.
Non, moi, j'avais surtout peur que ça me détruise mes neurones. En fait, et du coup, ça m'a.
Alors, ça détruit pas les neurones, ça détruit les liens entre elles. Ouais. Tu gardes tes neurones, mais ça les détruit pas entre elles.
Bon. Faut faire du microdosing de LSD, de ce que j'ai compris.
Ça va mieux. Il faut se renseigner là-dessus, il y a des recherches, etc. Mais pour revenir sur le truc, mais tu disais toi tout à l'heure qu'il fallait que tu te mettais une pression de ouf sur je dois bien manger, je dois faire la tutoza.
Ouais, parce que je suis en anorexie.
Mais en vrai, au final, c'est quoi qui se bat en toi? Quand tu prends l'émotion, tu parlais d'aller chercher loin. L'émotion qui se bat en toi, c'est quoi? C'est
la culpabilité.
Ton conscient et ton inconscient, il y a je sais ce qui est bon pour moi et il y a je sais ce qui est pas bon pour moi, mais ce qui est pas bon pour moi, c'est ton cerveau qui va le demander parce que lui il en a besoin, il s'est rattaché à ça.
C'est ça.
Je reprends le chemin intérieur du maïs où en fait tu l'as tout le temps pris et du coup en fait là t'es en train de retracer un autre chemin pour en créer un nouveau.
Après, je pense aussi beaucoup en termes de t'as eu des traumas, tu sais que t'as mis des systèmes de protection en place à un moment donné, tu les connais ces systèmes de protection, t'as choisi d'en choisir des plus sains, et à des moments, parfois, t'as besoin de ce système de protection, et il ne sert que juste d'alerte pour te dire, je prends un exemple, quelqu'un qui a étouffé ses émotions pendant des années par la drogue ou par la fête à outrance, etc. Bah, à des moments où il va être plus là-dedans, il va se dire, ok, là, je déborde un peu. C'est pas grave, on n'est pas obligé de tout le temps de se fustiger en mode « Ah non, c'est catastrophique !» Et juste se dire « Ok, ça fait partie de mon histoire, tu vois, genre c'est ok. » Genre, tu sais aussi de se déculpabiliser, de dire « Au moins, j'ai conscience et je suis pas dans le déni et je fais au mieux de ce que je peux. » Et c'est déjà bien, je trouve.
Oui, si jamais tu parles... Parce que là, tu parles d'une genre de... Pas de rechute, mais genre si tu reprends, si t'as arrêté et que tu reprends une fois...
Ouais, par exemple, de se dire, bah, c'est ok. En fait, c'est une question de.
Bah, moi, je trouve justement,
aussi.
Voilà, bah, la mesure, moi, je trouve que justement, le jugement, il vient si il y a une temporalité qui est plus proche. Alors, si ça arrive une fois, et que ça revient plus après, pourquoi tu te jugerais? Mais si ça revient une fois, le week-end après, ça fait 4 fois, donc 1 mois, là, tu te dis, bah, en fait, là, il y a un problème. Du coup, tu dois te juger pour te dire, qu'est-ce que ce comportement-là? C'est ce que j'aimais pas, du coup, faut que je arrête.
Il faut, mais pourquoi il faut? C'est quelles sont les valeurs que je mets derrière et. Ouais,
je trouve le UFO, la réponse, on l'a en chacun de nous. Hein. C'est soit en gros, tu sais que c'est bon pour toi, soit tu sais que c'est pas bon pour toi. Mais je pense que chacun de nous, on a la réponse, c'est ce qu'on se bat avec quelque chose qui est plus fort que nous, qui est des neurotransmetteurs et des choses qui font ce qu'on est en fait. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on va associer, toutes les choses qui sont dedans, par exemple le taux de sucre dans une boisson ou dans une nourriture, tous les taux de sucre qui sont augmentés pour que ça soit au maximum sur la tolérance de ton goût. Pour que ton cerveau en veuille tout le temps.
Mais oui, parce que bah oui, mais après je pense
ça, c'est
que
comme une drogue, c'est comme plein
on
de
est
chose,
dans une société qui nous culpabilise aussi vachement de tout ce qu'on fait tout le temps, et on est aussi, c'est pas facile en fait. Enfin, aujourd'hui, il y a ce truc de la performance sociétale de la réussite, mais il y a aussi ce truc de la performance d'être parfait, etc. Pour être au mieux de son potentiel. Parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de être un quelqu'un 2.0, mais il y a aussi beaucoup ça qui est aussi dans la société qui est vendu en mode soyez une meilleure version de vous-même, méditez tous les matins, machin, ma truc. Et en fait, tout est potentiellement culpabilisant si tu ne le fais pas. Et du coup, c'est d'arriver à être assez détaché de ce qui est imposé, de ce qui vient vraiment de toi. Et de, en fait, qu'est-ce qui, toi, répond à vraiment ce que toi qui fais vrai.
Chercher son propre repère.
C'est ça. Sauf que aujourd'hui, on fait beaucoup référence à ce qui sont des repères qui nous sont vendus comme étant ceux qu'il faut atteindre. Et le vrai challenge, en fait, c'est de trouver ce qui est notre vrai 2.0 à nous, qu'on s'est créé nous-mêmes. Et c'est peut-être ça, tout le...
Ouais, c'est un long chemin. Hein. Mais on parlait tout à l'heure de la mort, du deuil, etc. Je pense qu'en fait, même faire le deuil de la personne qu'on a été, je pense qu'il faut aller très loin, enfin très bas, dans un point de non-retour, pour faire une métaphore, c'est aller contre le mur, pour pouvoir, en fait, à ce moment-là, se dire, ok, bah, en fait, il n'y a plus de chemin possible, il faut en prendre un autre.
Ouais.
Comme quand quelqu'un est mort ou autre, là je fais un pont sur Emira où Il y a eu, alors je sais plus l'ordre, c'était ton frère après ton père, c'est ça? Et c'est le père qui t'a redéclenché l'autre.
C'est ça.
Et en fait, bah, la raison, c'est qu'il faut vraiment ouais, aller bas pour se remettre des déclencheurs, pour là se dire, ok, là, en fait, ce chemin-là, il est plus possible.
T'as
en
eu
fait, c'est dans notre nature de c'est plus possible.
C'est ça.
Et après, ça s'active et après, on change en fait.
Et moi, je suis très reconnaissante à mon burn-out qui m'a fait toucher le fond, parce que c'était l'apocalypse qui a fait naître des choses positives après.
Mais souvent, hein, les gens qui ont connu des burn-out et qui se relèvent, ou des gens qui ont connu la mort de près, etc., mine de rien, c'est quand même fou qu'on soit obligé d'aller toucher le fond de certaines choses pour se rendre compte de certaines, d'autres trucs. Tu vois. Et toi, tu m'as dit que tu avais commencé une psychothérapie, c'est ça, récemment?
Non, j'ai tout mis en place pour la commencer. Donc là, en gros, ça commence dans la semaine prochaine, quoi. J'ai tout mis en place pour. Je l'ai pas encore commencé. J'ai tout mis en place pour.
Et t'as de l'appréhension par rapport à ça, ou des attentes, ou des objectifs particuliers, ou tu t'es juste curieux?
Alors, je suis hyper curieux parce que je sais que ça sera une expérience. Et du coup, en fait, je sais que je vais en tirer du plus, mais je sais que j'en tirerai beaucoup de moins, et ce moins va m'amener du plus. J'avais parlé avec un pote qui est psychanalyste et qui m'a dit, ouais, c'est justement quand le sujet est en bonne santé qu'il faut faire une psychothérapie. Yes. Et il m'a dit, en fait, là, tu vas aller dans le down, le plus au-delà, tu vas aller chercher, tu vas aller creuser, mais après, tu n'en auras que du plus.
Rassure-toi, tu n'es pas obligé non plus d'en chier, hein. Ça peut être aussi...
Non, pas du tout. Mais c'est ce que je recherche aussi, dans le sens où bah, y a des choses qui sont enfouies en moi et que je n'ai pas du tout accès, et que mon cerveau a fait le tri.
Ouais.
Pour l'instant, tout va très bien dans ma vie, franchement... J'ai pas à me plaindre, mais je sais qu'on a tous des névroses, des choses qui sont restées en nous. Donc,
c'est ce que je recommande à tout mon entourage. Je dis à tout le monde, n'attendez pas d'être dans le mal-être total.
Allez-y quand ça va.
Pour aller voir quelqu'un.
Moi, il y a un truc que j'ai fait il y a pas longtemps. J'ai testé pour la première fois une séance de Inner Dance qui a inspiré des Philippines. Ça a été créé dans les années 80. Et en fait, c'était dans un état de transe par la musique. Et t'as les yeux fermés, t'es allongé, et en fait t'as les facilitateurs qui passent autour des gens, donc tu vois pas ce qu'ils font, mais ils passent au-dessus et ils font des trucs avec des énergies au-dessus de ton corps. Et je vous jure, ça a duré une heure, j'avais le corps qui se soulevait dans tous les sens, et avec la musique, je revivais des scènes de l'année dernière, de choses que j'ai vécues avec quelqu'un, mais je retraversais tout, je voyais tout, et j'avais les choses que j'avais envie d'exprimer à cette personne, mais qui sortaient dans ma tête, et j'ai pleuré. Il y a eu des moments où genre j'ai senti du désir, mais je disais mais de tout ça sort, ça c'est du pipi, vous êtes là, et ça sortait, il y avait des choses qui sortaient toutes seules. Je suis sortie, j'étais mais épuisée, et t'as des gens qui avaient pas bougé pendant toute la séance et d'autres qui avaient remué dans tous les sens en ayant les yeux fermés. Et mine de rien, c'est quand tu descends dans le corps par des outils ou autres. Et en ça, juste, je reviens sur la drogue. On critique beaucoup la drogue pour les effets néfastes, pour l'aspect négatif que ça a. Mais moi, je regrette absolument pas d'avoir pris des drogues depuis un an. J'ai arrêté un petit peu. Mais d'avoir touché à des drogues, parce que mine de rien, ça m'a permis de connecter à des états de conscience auxquels j'avais pas accès. Parce que mine de rien, même si c'est de l'ecstasy ou c'est des choses comme ça, ça te fait toucher des trucs qui sont dedans. Ça te fait sortir de la désinhibition des choses qui sont là, en fait, qui ne demandent qu'à sortir. Et tu dis, ah ouais, en fait, ils sont là, mais juste, ils sont enfermés le reste du temps. Et mine de rien, de savoir qu'ils existent et qu'ils sont là... Tu sais après que t'en as plus besoin pour aller les toucher, et c'est mieux de ne pas en avoir besoin, mais je suis pas hyper critique envers la drogue.
Ouais,
pareil, aucun regret là-dessus.
Ça ouvre la perception.
Ceci n'est pas une invitation à prendre de la drogue.
Non, je vais mettre des disclaimers au podcast interdit aux enfants de moins de 18.
Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire, même s'il y a des... On en
a
ressorti des trucs cool, on parle pas de... De toute façon, ce serait long, mais il y a aussi plein de choses négatives dedans. Mais c'est vrai qu'il y a du positif sur ce que ça peut apporter sur la vision du monde, la vision de nous-mêmes, la vision des autres.
Moi, je pense que c'est aussi une histoire de contrôle que tu as avec ça. Et justement, là, je voudrais dire surtout à Louis, parce que je tiens à dire pour les gens qui nous écouteraient, qui ne nous connaissent pas, c'est qu'on se connaît aussi d'avance, podcast. Et il y a quelque chose que je suis très admiratif, c'est que tu fais beaucoup d'expériences pour savoir à quel point t'es maître de toi-même sur telle ou telle chose, tu vois. Que ce soit avec l'alcool, que je sais qu'avec les drogues, t'as fait la même chose. Et je suis hyper admiratif de ça, c'est à quel point t'es dans... Du coup, ça te redonne une impulsion de contrôle sur ces choses-là, qui est, je pense, hyper importante, parce que, enfin, c'est en ça que c'est pas une apologie de la drogue qu'on est en train de faire, mais... Il y a beaucoup de gens qui peuvent sombrer là-dedans parce que t'es plus maître de ces choses-là. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être hyper destructeur parce qu'on va aller chercher toujours plus loin jusqu'à... Tant que ça te détruit pas, tu te dis que ça va, tu vois. Et d'avoir cette conscience-là, de se dire, je vais faire cette expérience-là, de juste plus en prendre et voir l'effet que ça fait et les apports positifs que ça fait de pas prendre. Coupons ça.
Pas taper.
De ne pas prendre telle ou telle drogue pendant tel moment et de voir les bienfaits que ça a aussi sur ton corps. Et ben, je pense que ça, c'est des expériences qui sont très très importantes.
Et c'est de l'ordre de l'expérimental, j'ai l'impression.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Moi, je
expérimenter
l'ai vu...
le plus, mais essayer d'expérimenter le moins aussi.
Moi, j'ai vu ça, la différence entre prendre et pas prendre dans le rapport aux gens. Après, il y a eu tout un travail, depuis juin, il y a eu tout un travail énorme, mais c'est plus dans le rapport de ma posture vis-à-vis des autres. À partir de tout ce chemin, de ce que je mets dans ma vie et de la, si je reprends votre expression, la Marie 2.0, entre guillemets, de ce vers quoi je veux aller, c'est aussi qu'est-ce que j'accepte de par les autres, de quelle posture j'adopte et de qu'est-ce qu'en fait je tolère plus et je n'ai plus aucune honte à ne plus le tolérer parce qu'en fait, il n'y a plus de peur de rejet ou de genre juste... À partir du moment où je suis prends du recul et tu te dis putain mais ma vie est tellement courte, qu'est-ce que je vais m'emmerder avec des choses qui ne me font pas de bien, qui m'angoissent, qui me sources de stress. Enfin, à partir de là tu prends un recul de ouf et du coup toutes les trucs qui te polluent mais que tu voyais pas avant se mettent à prendre une proportion des mesures parce que tu ne vois que ça, tu fais mais putain mais en fait ça c'est beaucoup de trop dans ma vie, j'en ai pas besoin et tu t'as plus de mal à le genre ok ça je rentre, ça je viens, j'aime. Et genre...
C'est la phase tri. Et ça demande une bonne connaissance de soi. Mais ça aussi, c'est un chemin...
C'est long.
C'est long. Bah oui.
Mais parfois, cette connaissance de soi ne suffit pas. Il faut aussi s'autoriser à le faire. Et c'est encore autre chose. Il y a se connaître, avoir analysé tout ça, tout ce que vous venez de dire. Et là, peut-être que je parle pas mal pour moi, hein, mais il y a le côté s'autoriser à... et ça c'est un pas qui peut être immense ou qui peut prendre des années à
mais ça peut bah regarde moi enfin genre j'ai ma première séance chez le psy ça devait être j'avais 17 ans j'en ai 29 attends j'en ai 29 oui j'ai 29 je sais plus putain ça
passe trop
putain mais c'est dur mais chaque année c'est la même histoire, je suis en train de compter, je suis là attends je sais plus mais je vais arriver à 60 ans, je me dis j'en ai 40, tu veux pas de soucis, mais non ça prend énormément de temps et c'est aussi pour ça que parfois on est dans une société où tout va vite, les choses vont pas au rythme qu'on veut avec ça, enfin ça prend le temps de process etc.
Du coup, Sarah, tu disais s'autoriser, mais s'autoriser à se connaître ?
Non, pardon.
Ou à faire le tri ?
À changer plutôt et à...
Oui. Je suis complètement d'accord. Ouais.
Et oui, à faire le tri, enfin, ça participe au changement.
Parce que pour le changement, se connaître, c'est pas suffisant. C'est vrai qu'il faut avoir aussi la volonté de changer, le souffle.
Ouais. Et puis... Je sais pas, vraiment, ouais, c'est... Non, le terme, c'est ça, c'est l'autorisation envers soi-même, de se dire, ok, j'ai le droit à quelque chose d'autre, j'ai le droit de me défaire de tout ce qui me convient pas.
Il y a des choses, toi, que tu as changé ?
Moi, j'ai un gros problème avec le changement, je pense. Moi, je résiste beaucoup, en fait, au changement, mais c'est très...
Je suis une ancienne addict, t'inquiète.
Mais est-ce que ça, c'est quelque chose qui te fait... Est-ce que tu veux dire que c'est quelque chose que tu ne fais pas parce que ça te fait peur ?
Il y a certainement de l'appréhension, ouais. Certainement de la peur.
Mais changement radical dans tes choix de vie ou dans les tests que tu peux faire en termes d'expérience. Là, par exemple, parler par exemple de consommation, que ce soit de drogue ou de tel aliment, ou je sais pas. Au final, c'est réducteur de réduire ça à la drogue, mais à n'importe quoi en termes d'expérience. Est-ce que c'est la peur de t'autoriser ces choses-là pour voir l'effet que ça a sur toi qui fait que t'as peur, mais du coup t'as toujours cette idée dans ta tête que tu ne t'autorises pas et tu sais pas parce que tu ne t'autorises pas et t'as envie au final, ça accentue l'envie d'essayer Ou est-ce que t'es très bien comme ça et tu te dis, genre, t'as pas besoin et tant mieux. Et enfin, je pense que c'est pas critiquable, en vrai, c'est tant mieux, tu vois.
Je suis pas mal comme ça, tu vois. Enfin, voilà, ouais. y a pas de souffrance liée à l'impossibilité de changer, enfin, quoique. Mais c'est peut-être la prise de conscience que, ah ouais, mince, je suis, ok, je me maintiens dans un truc. Et à côté de ça, il y a la vie, puisque c'est quand même un des objets de la soirée. Il y a la vie qui continue à se dérouler. Et je marche à côté, ou elle passe à côté de moi, mais on ne se croise pas.
Et, c'est dur, ça. Et il y a des choses que tu, y a des choses que tu fais dans ta vie où tu te dis, putain, là, je suis à fond et je suis dedans, quoi.
Oui, oui, ça arrive. Je ne sais pas trop si je réponds à ta question, mais en tout cas, c'est ce qui me vient quand je t'entends et quand je t'entends me poser la question.
Moi, j'avais une autre question déjà.
Je pense que je vais
la peur du changement.
C'est quoi qui serait changé?
Ah, si, c'est ça.
S'autoriser à
devenir quelqu'un d'autre peut-être, ou à montrer que je ne suis pas tout à fait la personne que les autres croient que je suis.
Donc tu as l'air peut-être d'apparence calme, sage, qui fait pas trop de vagues.
Moi, je crois que je donne l'impression d'être toujours dans le moule.
Petit
soldat.
Le moule. Sortant du moule.
Et j'ai pas forcément envie d'être le bon petit soldat tel qu'on l'attend ou on l'attend.
Ouais.
Mais ça, s'autoriser à sortir du cadre pour vraiment vivre la vie qu'on a envie d'expérimenter ou qu'on a besoin d'expérimenter. C'est un truc, mais enfin, je pense que c'est justement le travail d'une vie, en tout cas de la mienne.
Mais en tout cas, il faut arriver à tester certains trucs qui sortent de ton cadre pour au moins oser te sortir du cadre et se dire, ok, est-ce que cette sortie de cadre, elle est ok pour moi ou pas?
Ouais.
Et moi, c'est depuis l'année dernière où j'ai fait des pétages de sortie de cadre et où je me suis dit, je me rappelle la première fois que j'ai embarqué Emira dans une soirée tantra, je me suis dit, l'autre, elle me dit, je sais pas où tu m'amènes, Marie. Et où, en fait, tu te rends compte quand tu sors du cadre, après c'est positif ou c'est négatif, mais c'est là où tu arrives du coup à savoir quel est ton cadre à toi.
Ouais.
Mais c'est pas évident.
Mais du coup, Sarah, tout à l'heure tu as répondu à Martin, tu as dit c'est plutôt ça me va comme ça. C'était ça ta réponse.
Ça peut être ok aussi. Ouais.
Quelle est ta version aujourd'hui? Ta version de toi-même. Tu vois, moi, par exemple, j'étais dans la version 1.0 et ensuite 2.0 parce qu'il y avait des prises de conscience et des plein de trucs, etc. Toi, aujourd'hui, c'était à combien 0.0? Un nouveau baromètre.
C'est toi. Mais j'arriverai même pas à répondre à cette question.
Un truc hors du commun que tu pourrais faire qui sortirait genre qui serait genre en mode sur qui voudrait pas forcément dire profiter de la vie, mais qui voudrait dire faire différemment et sortir du cadre. Est-ce que c'est sortir du cadre qui serait justement profiter de la vie et lutter contre la mort, si on revient dans le
bah peut-être, ouais, je pense que je serais peut-être plus vivante si je sortais plus régulièrement du cadre, enfin de mon cadre que je me suis imposé.
Donc t'as une impression plutôt positive sur le sortir du cadre.
Ah oui.
Ok.
Ouais.
Ça fait peur.
Bah ça fait peur, c'est un truc qui n'est peut-être pas. Ouais. Vraiment. En fait j'ai un règlement intérieur, j'ai une règle interne. Vraiment très rigide, très stricte envers moi-même. Hein. Mais alors, je suis très différente envers les autres. Enfin, je pense que je suis prête à accepter beaucoup, beaucoup de choses
de
la part des autres. Et moi, je vois plein de trucs se dérouler autour de moi. Je me dis, bah ouais, ils ont raison, ils ont le droit, c'est bien. Enfin,
mais pas pour toi.
Même moi, mais je me sens en dehors de cette réalité-là.
Mais j'ai pas... Ouais. Je vois ce que... Non, je vois ce que tu veux dire, parce que j'ai passé des années à être dans une rigidité sur tout. Et à partir du moment où j'ai mis allez, what the fuck, genre, ok, on y va, les gars, parce que j'étais tellement enfermée dans un truc, et je me faisais tellement chier dans mon enfermement à moi-même. Enfin, c'est pas que je me faisais chier, mais c'est juste que c'est quelque chose que je connaissais trop et qui ne m'apportait pas de positif. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais tester des trucs qui me font flipper, ou qui sont vraiment inconnus. Et c'est à partir du moment où j'ai testé des trucs que je connaissais pas, où je me suis dit, mais en fait, il existe d'autres manières d'être, d'autres manières de connecter, d'autres manières de vivre. Là, récemment plus, d'autres manières d'être avec les autres, parce que j'ai passé 10 ans très seule, où je relationnais pas avec les autres. Je faisais un travail de fou sur moi-même, à me poser 10 milliards de questions sur mes douleurs intérieures, machin, mais je n'arrivais pas à le matérialiser avec d'autres. Et c'est quand j'ai cassé les barrières et que j'ai appris à... Ok, c'est ça, être avec les autres. Ok, mais alors du coup, est-ce qu'il faut que je me plie? Ben non, je ne vais pas me plier. Mais après, tu fais tout ce chemin-là. Et du coup, tu apprends d'abord ce travail avec toi-même, après ce travail avec les autres, et après à faire le lien entre les deux. De... Mais ça, enfin... Ouais, c'est à partir du moment où tu sors de tes cadres, en fait, où tu peux...
Justement, moi, je trouve que ça soulève autre chose. C'est que justement, ce cadre, en fait, je trouve qu'il est énormément lié à comment on a la perception que les gens te voient.
Ah bah oui.
Et moi je sais que quand j'étais on reprend le 2.0, 1.0, moins 1.0 où j'étais vraiment pas moi-même, mais au final je me rends compte maintenant que je pense être mon 2.0 et que je suis heureux. Quand j'étais moins 1.0, j'étais pas t'es dans le mi-bonheur, enfin dans cette à moitié non-vie.
T'as l'impression.
Enfin, mais je parle vraiment que de mon expérience personnelle. Ouais. Après je dis pas que voilà, mais t'as l'impression qu'on va te juger si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais pas ci, si tu fais pas ça. Et en fait, moi, on en revient toujours au même, d'avoir touché le bas, où, au final, et la perception quand t'es dans le bas, tu te dis, mais tout le monde va te voir de telle manière. Moi, je me disais, mais tout le monde va te voir comme la pauvre petite chose qui a vécu des trucs de, oh là là, terrible, tu vois. Mais non, en fait, il y a un moment où il y a une prise de conscience, je sais pas, un déclic où tu te dis, mais en fait, je vous emmerde. Je vous emmerde tous, tu vois. Non, mais
et t'as plus du tout ce truc. Est-ce que t'as des fois des petites pointes de qu'est-ce qu'on va penser de moi? Eh bien voilà, hein, un petit peu de frustration pour cette fin de première partie de table ronde sur un sujet quand même puissant, tel que la mort, mais surtout la vie très fort. Et autant vous dire que la deuxième partie est tout aussi savoureuse à écouter, je dirais. Alors à tout de suite pour la partie 2, épisode 110. Et surtout, je vous souhaite une très très belle journée ou une très très belle soirée.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.